J'ai tendance à bloquer.
Un.
J'ai tendance à bloquer.
Ça, je le fais bien. Je suis beatboxer instrumentaliste.
Ouais, j'entends.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, l'équipe au grand complet. Je suis accompagné par
yes.
Karim.
Et oui, ma mène, je suis revenu enfin.
Ah, le retour de l'enfant prodigue. Monica.
Salut.
Juan.
Salut.
Camille, de retour également. Magnifique.
Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi.
Beaucoup. Et Hicham.
Salut.
Hicham, tout le monde s'en fout.
Bah, ça fait plaisir de vous revoir.
Et super. Toi, Ilias, tu es aussi
tellement...
là.
Ah. On est tellement contents de te revoir.
Ah, tu faillotes tellement fort, tellement il a même pas manqué. Dit comment ça va, t'as juste dit, et toi Ilias, tu es là.
Ma préférée est de retour. Mais en tout cas, non, ça va très bien, je suis très content de vous revoir, même si on se voit régulièrement. Bah, d'ailleurs, on était à l'apéro du podcaster la semaine dernière.
Oui. Il y a un mec qui est passé à travers la trappe.
C'est vrai.
J'espère qu'il va bien. Si on peut avoir de ses nouvelles, ça nous arrangerait.
On a surtout failli gagner au blind test, mais...
Oui, on était à deux doigts.
Failli comme dans échec.
Non, on était pas loin.
Non, j'ai vu le score, ça va.
Non, mais vous avez gagné aux fléchettes, je crois.
On était à deux doigts de l'équipe 404.
On les a plus les chats ou pas? Non.
Bon, on va s'améliorer, mais c'était déjà pas mal. Mais soit très sympa, ouais, plein de poditeurs, plein de podcasteurs, c'était vraiment super chouette. Bah merci à l'équipe du podcaster, super accueil, c'était vraiment ultra cool.
Absolument. Vous êtes des mecs marrants. On viendra, promis.
Ils étaient vraiment chouettes. Et sinon, bah tiens, dans les news aussi, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et Twitter, ils ont pu le voir, on a reçu un super cadeau de Vincent du domaine de Pélissol,
oui.
Qui est notre sponsor d'aujourd'hui. Il nous a envoyé une superbe caisse.
Merci Vincent.
De vin.
Bravo. Donc,
au top.
On va peut-être arrêter d'applaudir toutes les 10 secondes.
Ouais.
Filez-nous de la tease.
Ouais, c'est pas l'école des fans, on se calme. Mais non, enfin, tu as tout notre amour. Donc on est en train de déguster en rouge, blanc et rosé.
Nous rappelons que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé.
Haute vallée de l'Orbe.
Oui, et puis on va peut-être pas faire de la littérature.
Oui, la haute vallée de l'Orbe, par contre, c'est l'endroit, c'est pas le nom du.
Oui, bah tu pinailles.
Hein. Allez, ouais. Allez, on enchaîne. Allez, et bah du coup, on va pouvoir passer à la description des sujets. Karim, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
Et ben moi je vais vous parler des différents types de personnalités qui existent et des différentes sociétés qui ont effectué des pivots. On expliquera ce que c'est si jamais vous savez pas.
Comme Bernard donc.
Comme Bernard exactement. Comme la bière en tchèque aussi.
Énorme. Comme basket. Très bonne blague.
Ah, la bière en tchèque.
Il y a une bière en République tchèque qui s'appelle la bière Bernard, donc il y a écrit Bernard Pivot en République tchèque.
Véridique.
Ah, c'est une bière.
J'irai vérifier.
On vous mettra un screenshot.
Ok,
parfait. Et Juan, de quoi tu veux nous parler?
Moi je vais vous parler de Elon Musk ou Elon Musk si vous êtes très con.
Camille, pour ton retour.
Eh bien, sujet frais et simple comme d'habitude, la guillotine.
Ouais.
Toujours les sujets qui font plaisir, ma mène.
On aime bien la mort.
Et Guicham.
Ouais, moi je veux parler du Bigfoot.
Ah,
yes.
Les personnes aux grands pieds qui ont été réformées.
Yes.
Et toi alors, Ilias, de quoi tu vas nous parler?
Ah, merci pour ce petit suçage de boue. Moi, je vais vous parler d'insultes en fait. Quelques petites explications sur les insultes qu'on utilise souvent ou non pour d'autres qui sont un peu moins utilisées. Mais expliquer d'où ça vient, leur origine puis leur signification originelle.
Je vois venir qu'on va plutôt être sur du ou non.
Bah, pas vraiment du ou non, mais plutôt du jeu surtout avec
des petits
extraits. Vous verrez, ça va être très sympa.
Je suis encore plus confus qu'avant, c'est parfait.
Ah, ça va être cool. Bah du coup on va pouvoir passer au sujet de Camille.
Oui.
Voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, ok. C'est la guillotine.
Ça va trancher, chérie.
Eh bien on est parti, la guillotine. Donc la guillotine, c'est une machine qui est un témoin du raffinement à la française, n'est-ce pas? Que tous les pays du monde nous envient.
Absolument.
N'est-ce pas? Étant donné qu'elle sert à découper délicatement, je tiens à le préciser, un corps en deux.
Alors délicatement, j'ai une petite question là-dessus.
Oui.
Initialement, il ne fallait pas plusieurs coups pour que ça fonctionne?
Alors justement, on va en parler. Et la guillotine, c'est ce qui est merveilleux, c'est que non, si c'est bien fait. Mais...
Ah.
Faut que ça soit du made in France, quoi.
Ah, exactement.
Faut que t'aies bien entretenu ta guillotine.
Donc... La guillotine Cocorico, c'est bien à nous, c'est une machine française.
Bravo.
Qui néanmoins a été utilisée dans d'autres pays, parce qu'il y a toujours des petits salauds qui se réapproprient nos inventions.
C'est espionnage industriel.
Donc, exactement. Donc, elle a été utilisée en France, en Suisse, en Grèce, en Suède, en Belgique et en Allemagne. Voilà.
Et c'est nous qui les fabriquions pour eux ou ils nous ont grugé les blueprints?
Non, je pense qu'ils nous ont grugé les blueprints. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de quand la guillotine a été créée?
1779.
Absolument pas.
C'est pile poil pas ça.
Ah, tu l'as laissé build up, ça se fait pas.
Non, non, mais c'est bien 1700 et des patates. En fait, pour comprendre le pourquoi du comment de la guillotine, il faut déjà se demander pourquoi.
Alors, si je peux me permettre, 1700 oui. Des patates, ok. Et du coup, c'est. Parce que tu viens d'éluder la réponse.
On va y venir. Ah, on va
Ilias,
y venir.
Le prof d'histoire dans son rôle, tu sais, la date est importante.
Mais voilà. Il y a vite de précision.
On y arrive. En fait, en 1780, donc à cette époque-là, en France, on est sous le règne de Louis XVI. Donc, je vous le rappelle, Louis XVI, le roi qui s'est fait guillotiner pendant la Révolution française, un des derniers rois de France.
Ah, s'il te plaît, dis-moi que c'est lui qui a commandé cette invention.
Ah ben, tu vas voir, il y a fortement contribué.
Excellent.
En fait, Louis XVI, le pauvre, on retient dans nos cours d'histoire que c'est un roi très très méchant, voilà, qui a piqué plein de sous dans les caisses de l'État et qu'on l'a guillotiné parce que c'est un roi très autoritaire. En fait, pas du tout, il a payé pour tous les autres et c'est probablement le roi le plus éclairé qu'on ait eu en France.
Dommage.
Et, ah oui, dommage pour lui, hein, c'était con. Et Louis XVI, en fait, il a décidé de moderniser, entre guillemets, la peine de mort. C'est-à-dire que dans un premier temps,
bonne idée.
Dans un premier temps, il va abolir en 1780 ce qu'on appelait la question préparatoire. C'est-à-dire que lorsque vous étiez condamné à mort, automatiquement, on vous torturait avant, juste avant, c'était obligatoire, pour être sûr que vous n'ayez pas quelques complices dont vous ne voudriez pas lâcher le nom à la dernière minute.
Ah, c'est pour ça que ça s'appelait la question préparatoire.
Exactement. Donc ça, on y passait forcément, c'était une ou deux heures avant l'exécution et on vous torturait bien comme il faut.
Oui. Parce que ouais, si je dis pas de bêtises, poser la question, ça voulait dire torturer en fait. C'était un
absolument. Oui, 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 tout à fait. Donc, il abolit cette question préparatoire et il se dit, tiens, ce serait bien de faire une peine de mort qui soit un peu plus sympathique au niveau de la souffrance.
Un peu plus spectaculaire.
Trop sympa, le mec.
Voilà. Et qui soit la même pour tous. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, avant la guillotine, la peine de mort variait selon ce qu'on avait fait et selon l'endroit d'où on venait. C'est-à-dire que, par exemple, les nobles, on les décapitait. C'est le petit privilège de la noblesse. Les gueux, en tout cas le tiers état comme vous et moi, souvent, pour la plupart des peines, on était pendus. Pardon, tu es peut-être là.
Karim.
On était pendus, ce qui n'est pas la chose la plus agréable du monde. Les faux monnayeurs étaient ébouillantés. Les régicides étaient écartelés.
Ah, j'avais demandé qui est-ce qu'on écartelait.
Les régicides. Et les parricides également.
Mais c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être tué d'une certaine façon si on avait fait un certain crime. C'était forcément
oui,
c'était un point.
Bah en fait voilà, il y avait plus ou moins une classification en fait selon ce que tu avais fait.
Et si t'as fait les deux, on t'ébouillante et après on te coupe la tête.
Exactement. Non mais il y a ce principe là par exemple, oui mais par exemple les sorcières nobles, bah du coup les sorcières on les brûle et les nobles on les décapite. Alors du coup ce qu'on faisait c'est qu'on les décapitait et ensuite on les brûlait.
Il y en a pas qu'on noyait.
J'ai dit ça pour rigoler.
Ah ça c'était à l'époque de la chasse aux sorcières mais ça s'est fait très peu de fois. Ensuite c'est rentré vraiment dans l'idée... Enfin, on en a fait toute une légende, mais ça s'est pas vraiment pas tant fait que
c'est
ça.
C'est pas super spectacle de noyer quelqu'un.
Mais j'imagine juste qu'il fallait brûler quelqu'un et puis le noyer en même temps, ça va être...
Ah oui, mais là, c'est chaud. On est d'accord. Donc du coup, l'idée, c'est de proposer... Aujourd'hui, la guillotine, ça nous paraît vraiment inhumain, mais en fait, l'idée à l'époque, c'est de proposer une égalité face à la mort pour tous. Donc en fait, c'est vraiment une prouesse technique.
C'était l'abbé Pierre, en fait.
Et non, mais c'est presque ça.
Tous égaux face à
l'adversité. Non, mais pour l'époque, oui, parce que l'abolition de la peine de mort que Robespierre mentionnait déjà à l'époque, c'est assez marrant d'ailleurs que Robespierre soit pour la peine de mort à cette époque-là, eh bien, c'était quelque chose de totalement impensable. Vraiment, la part d'humanité qu'on pouvait avoir, c'est de se dire, il faudrait qu'on rende la peine de mort plus cool. Et
ça en met pas carré, ça va, hein, c'est bon, c'est la huitième fois, tu voilà. Peux te calmer.
Mais exécuter quelqu'un, oui, mais on n'est pas obligé de le faire dans la souffrance et dans la longueur, voilà.
Mais quand même dans le spectacle.
Toujours dans le spectacle, effectivement. Alors, qui est l'inventeur de la guillotine?
Monsieur Guillotin.
High five.
Bah, en fait, non, c'est pas tout à fait Guillotin.
C'est Guillotin.
Guillotin.
Mais c'est pas Louis XVI lui-même.
Louis XVI va y contribuer, je vais revenir dessus. Ouais. Alors, en fait, c'est Joseph Ignace Guillotin qui est un député, et lui, il va être un des premiers à présenter un texte de loi pour dire ce serait bien que la mort soit égale pour tous. Donc ce texte de loi, il va le présenter en 1789, donc au moment où on débute la Révolution française, et où le concept d'égalité entre tous touche tous les députés en plein milieu de leur petit cœur patriotique. Donc... il en parle à l'Assemblée et il présente le projet d'un ancien chirurgien militaire qui s'appelle Antoine Louis et il dit bah voilà, ce mec a inventé un objet qui est super sympathique, qui s'appelait la Louisette à l'époque, parce que c'était le docteur Louis qui l'a inventé.
Évidemment.
La guillotine sera baptisée la guillotine quelques années plus tard.
Il s'est fait Louis Zété.
Imaginez le mec dans son garage pour les prototypes. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Non, t'inquiète, ça va.
Je me fais la Louisette.
Je me fais la Louisette. C'est qui cette pute?
Et donc, il fait un long discours à l'Assemblée et il va séduire les députés avec deux phrases que je trouve plutôt sympathiques. Il va dire « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. » Sympa.
Nice. Hein,
marketing.
Et surtout, alors là, tu vois, le côté marketing est vachement mis en avant. « Le couteau tombe, la tête est tranchée à la vitesse du regard, l'homme n'est plus. À peine sent-il un léger souffle d'air frais sur la nuque. » C'est beau.
C'est beau.
C'est printanier.
Mais en période de canicule, ça fait toujours plaisir.
Blague à part, c'est classe comme marketing, quoi. C'est du TEDx, oui. C'est du... C'est beau.
Mais on a presque envie d'y aller. Un petit souffle d'air frais sur la nuque, ça donne envie.
C'est à dire du air week, quoi.
Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant la Révolution française, on racontait beaucoup du coup que se faire guillotiner, ça faisait un souffle d'air frais sur la nuque. Et on a deux révolutionnaires qui ont passé leur dernière nuit dans la même cellule avant d'être guillotinés, donc Georges Danton et Camille Desmoulins. Et il paraît que Georges Danton a soufflé sur la nuque de Desmoulins toute la nuit pour qu'il s'accommode.
Sympa.
Voilà.
Ouais, c'est pas cool de pas s'habituer, quoi.
Ce Danton.
La camaraderie.
Mais c'est vrai que avant, c'était les bourreaux. Et il devait s'y reprendre à plusieurs coups de hache pour y arriver. Et la guillotine, c'est vrai qu'avec le poids de la lame,
exactement. Ça tranche
uniquement. C'était quand même une avancée technologique.
Mais bien sûr.
Surtout la forme.
Oui, parce que c'est le même truc que ta planche à imaginer.
C'est un start-up.
C'est vrai.
Donc le vrai père de la guillotine, c'est pas du tout Guillotin, du coup, c'est ce fameux docteur Antoine Louis. Donc Antoine Louis, il a pas vraiment inventé le concept, c'est-à-dire qu'il y a déjà des genres de guillotine qui existaient depuis le Moyen-Âge. On a la Maniera en Italie. Et on a le Halifax Gibbet au Royaume-Uni, enfin en Angleterre. Alors ça, c'est assez rigolo, c'est-à-dire que... Alors ça va pas être très radiophonique ce que je vais faire, mais en gros, on vous place la tête sur un billot, pareil, il y a la lame, sauf que la lame, on la pose juste au-dessus de votre tête, enfin, posée sur la nuque, et avec un marteau,
comme à la foire du trône.
Exactement.
Ah, c'est pas un petit souffle d'air frais, là. C'est...
Voilà. Ah oui, non, c'est une grande lame de rasoir dans ta gueule, plutôt. Alors... On va la construire, on la met au point et on va la tester sur des moutons. On hésite entre deux formes de lames, justement. Donc, on va proposer dans un premier temps, enfin en tout cas le docteur Antoine Louis va proposer dans un premier temps une lame en forme de croissant de lune. Sauf qu'on constate que les moutons et les bottes de paille sur lesquelles on teste, c'est pas très efficace et qu'il faut décapiter le mouton en plusieurs fois. On s'est dit, bon, sur un mouton, ça peut être assez fun, mais sur des êtres humains, c'est moins... Voilà.
J'aime bien ta notion de l'humour.
Ouais. Non, mais c'est bientôt l'Aïd. Et du coup, voilà, je me dis que ça peut être un thème.
On en installera une dans notre baignoire.
Mais pourquoi pas? Tout ce que tu veux, Hicham. Et donc, c'est Louis XVI en personne, lorsqu'on va lui présenter le prototype à la cour, qui va dire, mais attendez les gars, il faut mettre une lame en biseau.
En biseau,
comme une dent de scie.
Le mec
ça tranchera
sa lame, quoi.
Exactement, parce qu'en fait, le problème de la lame en arc de cercle, c'est qu'elle touchait plus de surface de peau, et du coup, la peau étant élastique, ça rebondissait en quelque sorte dessus. Voilà.
Ok.
Et il faut vous imaginer, j'ai plus les chiffres en tête, mais une lame de guillotine, c'est lesté au-dessus avec des poids, et c'est super lourd. Hein.
J'allais te poser la question, est-ce que c'est lesté ou est-ce que c'était le poids de la lame?
Non, c'est lesté. C'est lesté, et j'ai vu, là j'ai pas eu le temps de rechercher, mais il y a un très bon livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, qui s'appelle Le métier de bourreau de Jacques Delarue, et il en parle énormément. Et il a plusieurs chapitres sur la guillotine et il explique plutôt bien le fonctionnement de cette machine. Donc voilà, Louis XVI remet tout ça au point et on va enfin pouvoir tester la guillotine sur un être humain vivant. La première exécution à la guillotine, en fait, elle arrive super tard dans la Révolution française. Elle arrive en 1792, ça fait déjà 3 ans que la Révolution a commencé, et la Révolution se termine en 95. Donc elle arrive vraiment pour les deux dernières années de la Révolution, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser.
Est-ce qu'on a le nom du premier guillotiné?
Exactement, il s'appelle Jacques-Nicolas Pelletier.
Okay. Oui, mais
c'est pas lui.
Et c'était un voleur. Le mec, il a juste volé des comment ça s'appelle?
Des oranges.
Des guillotines.
Non, des assignats à.
Des assignats.
Oui.
Il va falloir qu'il t'explique.
Des c'est des genres de chèques de l'époque.
Ah d'accord. Okay.
Voilà. Enfin, c'est
des bons porteurs.
Oui, voilà, c'est ça. C'est des bons de banque. Et donc il a agressé quelqu'un dans la rue. Il l'a pas tué, mais il l'a un petit peu. Violenté. Et il s'est fait attraper par les gendarmes qui passaient dans le coin. Et on s'est dit, bah tiens, voilà, super, on a trouvé une victime pour tester notre guillotine. Donc on va l'exécuter le 25 avril 1792, pardon, en place de grève. Donc pour ceux qui ne voient pas vraiment où est la place de grève, c'est l'actuelle place de l'Hôtel de Ville à Paris. Mmh. Voilà.
Classe.
Et
pour ceux qui voient pas où c'est la place de l'hôtel de ville à Paris.
C'est devant l'hôtel de ville. Station.
Le shit Sherlock.
Station hôtel de ville sur la ligne 1 et la ligne 11. Voilà.
Là où il y a le Fnac Live.
Exactement là où il y a le Fnac Live. Donc l'exécution va en soi plutôt bien se passer. Pour Nicolas Jacques Lepelletier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la foule juge que c'est une exécution beaucoup trop rapide. Donc on est déçu.
Donc il faut faire un build-up avant.
Du pestacle.
Donc c'est à partir de ce moment-là en fait, qu'on va demander, pour rajouter quand même un petit peu de pestacle justement, à ce que le bourreau prenne la tête des gens pour la montrer.
Voilà, ça. Est-ce qu'il joue avec, genre en mode football?
Ouais, bien sûr, puis il y avait un orchestre derrière avec un accordéon. Voilà. Alors, la guillotine, elle va poser problème en fait au bourreau, étant donné que les bourreaux sont absolument pas habitués à utiliser ce genre d'outils. Donc, faut vous imaginer qu'on avait fait, donc à cette époque-là, la famille des bourreaux à Paris, c'était la famille de Charles Sanson.
Ils ont fait des tutos.
Qui était une énorme dynastie de bourreaux. Ben non, mais ils avaient un petit mode d'emploi. Et donc, il faut les imaginer que
leur petit
papier...
Tu lèves la corde, ça tombe.
Ben, et surtout que c'était eux qui la montaient, la guillotine. Donc, faut vous imaginer qu'ils avaient intérêt à bien suivre le plan IKEA.
Il y a des guillotines en trop, on fait quoi? J'ai peur que quelqu'un soit blessé. Non, mais c'est le but.
Donc la première utilisation de la guillotine, voilà, c'est en 1792 et on va l'utiliser en France jusqu'en 1977. Dernière utilisation de la guillotine à la prison des Baumettes, je ne me rappelle plus du dernier,
guillotine
en France. Voilà. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qu'on a guillotinées en France?
Des milliers.
Des dizaines de milliers.
Ah ouais, à ce point-là,
environ 20 000 personnes.
Oh, ah, quand même.
Ouais, c'était un travail à la chaîne pendant la Révolution.
Ah oui, alors dont vous allez voir plus des trois quarts pendant la Révolution, donc en l'espace de 2 ans et demi.
Pour la Terreur aussi, j'imagine.
Voilà, oui, c'est essentiellement pendant la Terreur. La guillotine, en fait, arrive vraiment à point nommé, étant donné qu'on la met, on arrive à la perfectionner juste avant que la Terreur débute. Donc Robespierre s'en est frotté les mains, il s'est dit ouh, la belle chose qu'on me met entre les doigts. Donc la guillotine, elle a eu plein de petits surnoms. Donc je vous ai dit, au début, elle s'appelait la Louisette, on l'a appelée la Veuve. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Louis-Ferdinand Céline, qui l'a appelée le Goncourt des assassins.
Ah, Céline.
C'est mignon. Voilà.
Céline.
La Bascule, le Rasoir National. Enfin, voilà, il y a eu énormément de noms. Et il va y avoir... Enfin, aujourd'hui, la guillotine, quand on pense exécution à la guillotine, en fait, on imagine tous la même chose. On imagine tous un homme dans sa cellule qu'on va réveiller à l'aube. Il a presque pas dormi. On va lui couper le col de sa chemise. On va lui couper les cheveux pour éviter que les cheveux entravent le couperet. On va lui proposer un petit verre de rhum. On va lui proposer la cigarette du condamné. On va lui lier les mains. On va l'attacher. Le corps tombe dans le panier. On ramasse la tête.
Ça commence à être long, là, Camille.
Oui, ça va.
Une chanson,
mais non,
de
mais
ça
en fait, c'est la seule... C'est comment dire, c'est vraiment le seul moyen d'exécution qui est vraiment énormément ritualisé. Et toutes les exécutions à la guillotine sont passées de la même façon. Il y a un petit rituel qui s'est enclenché et qui a duré pendant plus de 200 ans. Donc c'est mignon, c'est partie de notre patrimoine, hein, il faut vraiment y penser. Voilà. Donc l'âge d'or de la guillotine, c'est vraiment la Révolution française. Pendant la Révolution française, on va en un petit peu plus de 3 ans guillotiner 13 800 personnes en France.
Oh, putain de Dieu.
Correct.
Ah bah ça, je ne te le fais pas dire. Donc on a le bourreau dont je vous parlais, le bourreau de Paris, Charles Sanson, qui a écrit ses mémoires et qui a tenu un compte, en tout cas une estimation. Et donc c'est grâce à lui qu'on a ces chiffres. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, cet homme, il a été très très choqué du nombre de personnes qu'on a envoyées à la guillotine. Il était payé à la tête, hein, donc en soi, il était choqué mais riche. Hein.
Et, comme beaucoup de nos jours. Hein.
Voilà. Et c'était un bourreau qui secrètement œuvrait contre la peine de mort, donc le mec il se tirait une balle dans le pied concernant son métier.
Il œuvrait contre la peine de mort.
Ouais, absolument, il faisait ça en secret, c'est-à-dire que pendant la Révolution française, être contre la peine de mort, c'est être antipatriote, et donc il évitait de le crier sur les toits, mais lui, il n'approuvait absolument pas ça, et il a même sauvé quelques femmes pendant la Révolution, en leur conseillant de faire croire qu'elles étaient enceintes.
Mais du coup ça pouvait
être... On guillotine pas les femmes enceintes, donc...
Ouais. Ah bah non, pas les moments.
Même après qu'elles aient accouché.
Même après qu'elles aient accouché. Parce que sinon, en fait, au début, si on les guillotinait quand même après l'accouchement, puis au final, on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de pupilles de la nation, que ça faisait beaucoup d'enfants à nourrir.
Bah non, si elles ont pas accouché.
Non,
après qu'elles aient accouché.
Donc... C'est fait des fœtus de la nation, sinon.
Mon Dieu, quelle horreur.
Pardon.
Donc voilà, alors la guillotine, ce n'est pas comme la maladie d'amour qui touche les gens de 7 à 77 ans. La guillotine en France, elle a touché les gens de 14 ans à 93 ans.
Ah,
voilà,
même,
donc on a guillotiné des gens de 93 ans, je sais pas si vous imaginez, oui, c'est quand même assez.
Bon, ça va être plus simple.
Oui, non, mais enfin, là on est dans les années 1790, autant attendre qu'ils meurent, quoi. Je veux dire, ils en avaient plus pour très longtemps.
Hein. À 13 ans et 11 mois, tu devais fouetter ta race, à la moindre connerie.
Non, non, on aurait pu guillotiner avant. En soi, il n'y avait pas d'âge minimum légal. C'est juste que le plus jeune qu'on ait trouvé à guillotiner.
Devait faire cette taille minimum.
Comme à Disneyland avant les attractions. Trop petit. Désolé, revenez le mois prochain. Et le maximum qu'on ait fait à Paris, et de toute façon, je pense que c'est vraiment à Paris qu'on a battu les records. Lyon aussi, d'ailleurs, était pas mal. Mais à Paris, on a fait 70 personnes en une fournée. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a fait 70 personnes en moins d'une heure.
Quoi ?
Sur la même guillotine.
Mais ils ont mis plusieurs sous la lame, c'est pas possible.
Tout le monde s'éclate.
Mais ça fait plus que 1 par minute en moyenne.
Exactement.
Ça va super vite.
Ah bah ça, c'est de la rapidité. Donc, la guillotine, enfin, ça reste quand même quelque chose d'assez violent. Alors oui, vous allez me dire peut-être que par rapport à de l'écartèlement ou par rapport à ébouillanter quelqu'un, c'est moins violent. Mais je sais pas comment vous dire, c'est une machine qui intervient, c'est plus l'homme directement qui tue quelqu'un. Et ça a vraiment choqué les esprits à l'époque de la Révolution française, parce que c'est un objet qui est tellement rapidement rentré dans le quotidien des gens. Il faut vous imaginer qu'il y avait une exécution à Paris tous les deux jours, donc en place publique. Donc en fait, et du jour au lendemain, c'est devenu comme ça. Donc les gens se sont vraiment habitués très rapidement à voir cet objet.
L'ubérisation de la peine de mort, finalement.
en quelque sorte. Et donc j'ai noté quelques victimes qui ont eu une réaction... amusante ou triste face à la guillotine. On a par exemple Charlotte Corday pendant la Révolution française. C'est celle qui a assassiné Marat dans sa baignoire. Mm-hmm. Voilà, donc pour vous aider à situer, je vais pas vous refaire toute l'histoire de Marat, mais voilà.
Prochaine fois.
Très beau tableau de David d'ailleurs.
Très beau tableau de David, exactement. Charlotte Corday, en fait, c'est une jeune nénette qui, selon les sources, entre 18 et 22 ans, donc elle est toute jeune quand elle se fait guillotiner. Et en fait, avant d'être exécutée, elle a fait le tour plusieurs fois de la guillotine. Elle a regardé dans tous les sens, en haut, en bas, en dessous, elle s'est penchée. Puis ensuite, elle est retournée voir le bourreau, elle fait « C'est bon, on peut y aller, excusez-moi, j'en avais jamais vu et j'en avais tellement entendu parler, je voulais voir comment ça fonctionnait. »
Elle est curieuse,
prendre un selfie.
Voilà.
C'est bien d'être curieux.
On a également Danton, donc l'homme qui soufflait sur la nuque des gens, qui restait drôle, entre guillemets, jusqu'au bout. Lui, en montant sur la guillotine, il a été guillotiné en même temps que plusieurs de ses amis. Et il était en train d'enlacer un de ses amis et le bourreau l'a séparé violemment. Et Danton a dit au bourreau, tu n'empêcheras pas nos deux têtes de s'embrasser dans le panier.
Oh. Je m'attendais à un chéri, ça va couper.
Non, non, et la dernière phrase qu'il ait prononcée, c'est, il s'est tourné vers le bourreau et il lui a dit, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Voilà.
Ah, quel homme,
quel homme, bonhomme,
quelle prestance.
Hein, ah, ce Georges, n'est-ce pas
people,
hein. Ça, c'était un député. Hein. Aujourd'hui, député comme ça, avec des couilles comme ça, on en a moins.
Oh, ça dénonce.
Avec des couilles tout court, déjà, il n'y en a
exactement.
Pas de
menace,
mais... Bon, c'est bon.
Et on a eu aussi, du coup, des moins courageux. On a vraiment un exemple de personne qui a perdu toute sa dignité face à la guillotine, c'est Madame du Barry. Oui. Vous la connaissez peut-être de nom, pour les petits gâteaux, les petits machins et tout. C'est surtout une maîtresse de Louis XV.
C'est ce que j'allais dire.
Et elle a été arrêtée pour trafic de bijoux pendant la Révolution française. Enfin, non mais oui, ouais, une très sale histoire.
On survit, hein.
Non mais c'était la raison officielle. Je pense que la véritable raison, c'est qu'elle avait été la maîtresse d'un roi de France. Et on l'a conduite à la guillotine. Et apparemment, elle a hurlé, elle a supplié, elle s'est accrochée aux marches. Elle ne voulait absolument pas y aller. Et les journaux ont dit que c'était la seule femme qui n'ait pas su mourir pendant la Révolution.
Ah oui, c'est vrai que j'avais lu ça.
Et il y a une phrase célèbre du style encore quelques minutes, monsieur Bourreau, ou encore quelques instants, monsieur Bourreau.
Oui, ça c'est Marie-Antoinette, je crois, qui a dit ça. Ah, ouais, qui a marché sur le pied du bourreau et sa dernière phrase, ça a été pardon monsieur, je n'avais pas fait exprès. Non, mais si, c'est vrai.
Poli jusqu'au bout.
Ah, mais voilà, tata Toinette. Et cette Dubarry, on l'a surnommée la lamentable épave monarchique. À cause de sa réaction face à la guillotine. Ouais. Je trouve ça extrêmement violent. Voilà.
Paye ta postérité.
Donc la guillotine également, elle a tellement marqué l'esprit des gens qu'elle a donné naissance à des jeux dans les prisons pendant la Révolution française. On a créé ce qu'on appelait le jeu de la guillotine pendant la Terreur. C'est-à-dire que pendant la Révolution française, notamment pendant la Terreur, on vous envoyait à la guillotine vraiment à la queue leu-leu et à la pelle. C'est-à-dire que vous passiez en procès, on vous disait très vaguement si vous seriez guillotiné ou pas, parfois on vous précisait pas, puis ensuite on vous mettait en prison, puis il fallait attendre qu'un jour un gardien débarque, sorte une liste de noms. Si votre nom était sur la liste, c'est que vous y alliez, c'est que c'était pour maintenant, en gros, voilà. Et donc ce que faisaient les condamnés, c'était que dans les prisons, donc ils avaient des grandes tables dans les cellules, c'était des immenses cellules, hein, faut vous imaginer ça, et donc le but du jeu, c'était que les prisonniers se mettent autour de la table pour faire la foule, et en fait qu'il y en ait un qui monte tour à tour pour s'entraîner.
Picotis, picota, récupère ta tête en bas.
Oui. Non, mais pour s'entraîner à mourir avec classe et élégance.
Mais c'est comme les acteurs qui s'entraînent à recevoir un Oscar sous leur douche, quoi.
Ah, mais c'est exactement ça.
Je remercie ma famille. Je remercie.
Mais c'est tout à fait ça. Donc ils essayaient de trouver les meilleurs discours possibles, les meilleurs punchlines possibles avant de mourir pour partir avec classe. Voilà.
Lorenzo, il aurait fait un super guillotiné.
Vas-y, coupe ma tête, ma mène.
On a également eu tout un tas d'objets
pendant
la Révolution qui sont visibles aujourd'hui. Donc là, pour le moment, la collection est fermée, mais au musée Carnavalet, je vous invite vraiment à y aller. C'est un musée qui est gratuit, le musée de l'histoire de Paris. Et il y a une section qui est vraiment paumée dans les étages et personne ne veut y aller parce que la Révolution française, ça fait chier tout le monde. Mais il y a presque une dizaine de pièces qui sont consacrées à la Révolution française. Et il y a une pièce qui est entièrement consacrée à la guillotine. Vous avez une lame de guillotine, vous avez tout un tas de choses. Et vous avez tous les objets qui ont été inspirés par cette mode de la guillotine. Donc on a des colliers, on a des broches, on a des boucles d'oreilles que les gens portaient et qui étaient très très glamour à cette époque-là, avoir un énorme sautoir en guillotine. Il y a également une mode vestimentaire qui s'appelait la mode des incroyables et des merveilleuses.
Incroyables.
Oui, des incroyables et des merveilleuses, parce que c'est la mode des Antilles aussi à cette époque-là, donc on ne prononce plus les R. C'était en fait une période où les femmes portaient des grands décolletés.
Des sautoirs.
Se couper les cheveux, des sautoirs. Se couper les cheveux à la façon des condamnés à mort et porter un léger fil rouge autour du cou, comme si on avait tranché leur tête et qu'on leur avait remis par-dessus. Les hommes portaient, ça a duré quand même 5 ou 6 ans, hein, cette mode. Hein. Les hommes portaient des énormes cols comme des écharpes, mais de façon très rigide, un peu cartonnée à l'intérieur, qui leur remontaient jusqu'en dessous du nez, comme pour se protéger le cou.
J'adore
d'une potentielle guillotine.
C'est un fashion faux pas, ma chérie.
Voilà. Et ça a plutôt duré, donc je vous invite un jour à Google. Lisez incroyable et merveilleuse, et vous avez plein d'estampes sur internet dans Google Images qui vous permettent de vous faire une idée, et vous allez voir que franchement c'était une période où je pense peut-être que la mode a été le plus dégueulasse dans l'histoire à cette époque-là. Vraiment, c'est purement ignoble.
La mode de la mort.
Vous avez également des assiettes, il y en a plein qui sont visibles au musée Carnavalet, des soupières avec des grosses guillotines dessus. Et il y a surtout, et moi c'est ce que je préfère, il y a des jouets. Donc on pouvait acheter des petites guillotines et on avait des petites poupées où on pouvait enlever la tête et remettre la tête comme avec un genre de système de scratch. Et ça se vendait en fait aux exécutions publiques. Le papa qui allait avec ses enfants, allez, je t'achète une guillotine.
Une poupée guillotine. Voilà. Il y avait aussi des coupes cigares en guillotine.
Oui.
Mais d'ailleurs, la fois où Louis XVI s'est rendu compte qu'il fallait mettre la lame en biais et non pas en arc de cercle, en croissant de lune, c'était une mini guillotine taille Barbie. On avait testé ça sur une carotte. Voilà, pour le petit détail. On va également, autour de la guillotine, créer des genres d'événements assez particuliers, notamment le bal des victimés. Et donc ça a beaucoup se faire à Paris. C'était les soirées à la mode en 1794 et 1795, donc juste après la terreur et la mort de Robespierre. Et donc en fait, c'était des soirées où tout le monde allait en noir, habillé du coup en merveilleuse et en incroyable. Et c'était des balles où on ne trouvait que les familles, les rescapés, ceux qui avaient été graciés à la dernière minute. Et on s'organisait pour organiser des mariages entre orphelins, ce genre de choses, pour fonder des dynasties de survivants de la guillotine. Enfin, ça a rendu les gens mais complètement fous, cette guillotine. On a vraiment du mal à s'imaginer aujourd'hui.
Ça vient peut-être aussi du côté justement non humain, en fait. Vu que c'était un objet et plus une personne qui guillotinait, ça faisait un peu la sanction divine.
Et ce côté à la chaîne. Je pense que les Parisiens ont vraiment été traumatisés de voir, en moyenne, à la guillotine, on vous conduit à 8, 9, 10. Un jour sur deux, avoir une charrette avec 10 personnes qu'on fait passer de vie à trépas en l'espace de 25 secondes après un procès qui a duré environ 40 minutes pour les 10 personnes, je pense que ça a vraiment marqué les esprits. Hein, voilà. D'ailleurs, petite anecdote qui me revient en tête, je vous l'offre. Robespierre a fini guillotiné. Ça, je pense que vous le savez tous, mais je sais pas si vous le saviez, mais Robespierre s'est suicidé avant de se guillotiner.
Entre guillemets.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a pris un pistolet, il s'était mis sous le menton.
Mais il s'est foiré.
Et il a tiré. Et il s'est foiré, la balle est ressortie par les dents, lui brisant la mâchoire. Donc il est tombé dans le coma, on lui a mis un énorme nœud, comme un œuf de Pâques en fait, qui faisait tout le tour de la tête, pour essayer de tenir.
C'est vraiment pire en pire. Alors le mec, il a essayé de se suicider, et finalement on a dit « Non, c'est nous qui allons te tuer !»
Mais
alors,
c'est pas toi qui démissionne, c'est moi qui te vire.
Mais non, mais c'est ce que j'aime en fait dans la Révolution française. Et mais non, mais c'est ce que j'aime dans l'histoire en général, c'est qu'il y a plein de gens qui écrivent des bouquins, des histoires absolument loufoques, mais en fait, si les gens connaissaient un peu l'histoire, ils se rendraient compte qu'on n'a pas besoin, il suffit d'écrire notre propre histoire et on voit qu'on a plein de trucs déjà bien assez cradins, quoi, qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Et donc Robespierre a été a été jugé, donc il n'a pas assisté à son procès, hein, très clairement, il était dans le coma total et profond. D'ailleurs, si vous allez à la conciergerie, donc, qui était la prison de Paris pendant la Révolution française, là où les gens attendaient leur condamnation à mort, vous avez une petite pièce où il y a une pancarte avec écrit « Ici, Maximilien de Robespierre passa ses dernières heures avant d'aller à la guillotine. » Et moi, petite, j'imaginais un Robespierre droit, digne, sur sa chaise, en train d'attendre. En fait, pas du tout, c'était un bloc.
C'était un Robespierre avec une pastose dans le buffet.
C'est exactement ça. Et quand il est arrivé face à la guillotine, le bourreau s'est dit « Mais attends, René, son truc, là, autour du cou, ça passera jamais, ça va gêner, il faut qu'on lui enlève. » Et donc le bourreau, avec ses délicates petites patounes de bourreau, il a tiré sur le truc et la mâchoire est venue avec. Voilà.
Excellent.
Et Robespierre est probablement mort du coup quelques secondes avant d'être passé à la guillotine. Voilà pour l'anecdote.
Il a pas eu le droit à sentir le vent sur sa nuque.
Ah bah non, là il avait le vent dans les dents là.
Il s'en foutait là.
Il souffle sur sa peau. Ah.
Donc après la Révolution, la guillotine reste la technique principale d'exécution en France, c'est-à-dire qu'on va guillotiner tout le temps. Sauf pendant les périodes où ce sont des militaires au pouvoir, où on va avoir tendance plutôt à fusiller les condamnés à mort. Mmh. Voilà. Donc, où est-ce qu'on guillotine les gens en place publique jusqu'en 1937? Donc, à Paris, c'était soit devant les prisons, la Roquette, etc., soit sur la place de Grève, toujours, donc place de l'Hôtel de Ville. Le problème, c'est que on a eu des exécutions de personnes célèbres, par exemple Landru, le serial killer là, qui cramait les femmes dans sa... Bon, je vous ferai un sujet Landru
oui.
un jour.
Voilà. Oui. Voilà.
Encore un truc bien glauque.
Non, allez. Pas du tout, c'est la vie. Et donc il a été guillotiné à Versailles, si je ne m'abuse, devant le palais de justice, oui, c'est bien ça. Ouais. Et il y a eu un mouvement de foule, en fait, tout le monde voulait récupérer son sang pour en mettre sur les mouchoirs. Ça, c'était grave à la mode à cette époque-là, fallait tremper ton mouchoir dans le sang.
Ah, mon Dieu.
Et sauf que... Comment?
Pourquoi?
Bah pourquoi parce que pourquoi les hand spinners finalement?
Oui, bah, je pensais pas dire ça un jour, mais je préfère les hand spinners.
Et donc du coup il y a eu un mouvement de foule, les gendarmes se sont fait totalement victimiser, et il y a eu ça pendant plusieurs exécutions à la suite, donc on a décidé que les exécutions n'auraient plus lieu en public à partir de 1937. Mais de 37 à 77, donc pendant les 50 dernières années de la Révolution française, il y a toujours eu de la Révolution française, pardon, oui, de la guillotine.
Je me suis dit genre, putain, c'était une grosse révolution, sa mère, quoi.
Non, de l'utilisation de la guillotine, pardon. On pouvait quand même continuer à aller assister aux exécutions. Ça s'est fait pendant toute l'histoire de la guillotine. Vous pouviez acheter vos places à la préfecture de police.
Fallait des invites, quoi.
Mais exactement. Et quand le préfet vous envoyait une invite, c'était vraiment pour vous féliciter, que vous étiez quelqu'un de bien, d'important. Si vous aviez sauvé un enfant qui se noyait dans la Seine, le préfet vous disait « Hey, je t'offre 3 places pour l'exécution de demain. »
Je te mets bien. Ouhou.
Voilà.
Premier rang, allez.
Et donc, la guillotine, eh bien, elle se termine, on la range définitivement en 1980 avec l'abolition de la peine de mort avec la loi Badinter. Apparemment, la dernière qui a fonctionné là, en 1977 à Marseille, au Baumettes, est encore visible aujourd'hui à Marseille. Voilà, je sais plus exactement où, mais si jamais ça vous botte... Hein, ça peut être
grave.
Sympa. Et je finirai sur le fait, et ça c'est la petite info que j'ai trouvée à la toute fin qui m'a énormément étonnée. Hitler a énormément utilisé la guillotine en Allemagne.
Ouais.
Alors ça, j'étais vraiment surpris. Ouais. J'aurais jamais cru. Pour moi, c'est perruque poudrée la guillotine. C'est pas Adolf Hitler, c'est pas moustache noire.
Voilà. Bah, il aimait bien tout ce qui était vestiges historiques et reliques et tout ça. Et il aimait bien utiliser tout ce genre de trucs.
Un homme plein de culture. En somme,
non,
voilà.
C'est vrai.
Nous arrêterons ce sujet sur ces belles paroles.
Absolument.
Et eh bien encore une fois ultra intéressant, mais on sent un petit côté morbide qui se répète, qui revient.
Mais elle aime bien à part.
Il y a un thème, il y a un fil rouge.
Bah du coup on va passer au sujet de Karim sur les pivots.
Tu vas rester sur la touche si tu pousses trop lentement, c'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps, je suis en retard tout le temps comme cette salope de lapin blanc.
Un pivot, est-ce que vous savez ce que c'est?
C'est plein de trucs. On en a parlé à l'intro. Il y avait le basket, il y avait Bernard Pivot.
Il y a les outils, les trucs mécaniques. Là,
ouais, quand
il et puis il a changé surprise. Complètement d'activité.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, je vais vous parler de quelques boîtes qui ont changé complètement d'activité. Et je vais essayer de vous faire deviner ce qu'elles faisaient à la base. Par exemple, si on prend... Bon, celle-là, elle est plutôt trouvable. Peugeot. Maintenant, ils font des voitures, mais avant, ils faisaient quoi?
Du poivre.
Des lions.
Poivre, pas loin.
Poivrier.
Ah oui.
Des moulins à café, des moulins à poivre. C'est ça. Je pense que votre grand-mère.
Mais comment ils en sont venus à passer aux bagnoles,
j'en
les gars?
J'en ai aucune idée, c'est un sujet court, j'ai pas eu le temps. On passe à la suite.
Putain, la crête de merde.
Oh là 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 là.
Ok.
YouTube à la base, est-ce que vous savez ce que c'était à part Ilias qui est déjà au courant?
Des livraisons de pizza? Non, enfin j'ai envie de dire où c'était tout le monde.
Je sais pas, le logo est rouge, ça m'a fait penser à la tomate.
Surtout n'oubliez pas, on donne les réponses mais on ne lui pose pas de questions, il n'y a pas de réponse. Voilà.
C'est... YouTube c'était un site de rencontre à la base. Les mecs ils se sont dit on va laisser les gens faire leur présentation d'eux-mêmes, mais au format vidéo. Genre bonjour, je m'appelle Michel, j'aimerais bien rencontrer une femme séduisante.
Bonjour Michel.
Ça marchait pas du tout. En fait, la section commentaires, c'était censé être réservé aux gens pour leur dire hey, tu es beau, est-ce que tu aimerais bien qu'on se rencontre et tout.
Sérieux ?
Ça a pas marché. Et ça marchait tellement pas que les mecs de YouTube en sont venus à donner des billets de 20$ à des meufs dans la rue pour dire hey, s'il te plaît, vas-y, crée-toi un compte sur YouTube parce que on a personne.
Et maintenant, ils dirigent le monde.
C'était genre les petites annonces des Lycée Moon en fait, mais en vrai quoi. Non.
Un petit peu, ouais. C'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'était la première vidéo uploadée sur YouTube, hors site de rencontre?
Des chats, des chatons.
Je l'ai su, j'ai oublié.
C'était un mec qui visitait un zoo, qui filmait sa visite au zoo.
Mais justement, ils se sont rendu compte qu'il y avait des personnes qui utilisaient le site de manière détournée. Et du coup, ils se sont dit, bah, en fait, c'est ça qui intéresse les gens, on va les laisser mettre leurs photos de vacances et des vidéos de chats. Et ça a fait le buzz.
Ça a pas trop mal marché, finalement.
Pas du tout. Je crois qu'ils ont été rachetés 1 milliard par Google, un truc comme ça.
C'est bien plus que ça. Ah ouais. Quand tu vois que LinkedIn a été racheté 24 milliards, je crois, je pense que YouTube a été racheté un peu plus cher que ça, mais.
Peut-être.
J'ai pas le chiffre.
Moi non plus.
On s'en fout au final.
Oui, c'est un sujet court.
C'est bien que personne recherche. C'est
et
bien.
La dernière société que j'ai notée, alors celle-là elle est très étonnante, c'est Nokia. À votre avis, ils faisaient quoi à la base?
Les briques.
Les glaçons.
Je vous jure que c'est vrai. Vous allez avoir
des couches culottes.
Ouais.
Non.
Presque.
Ah, des serviettes hygiéniques.
Du PQ.
Non.
Sérieusement.
Sérieux.
Vous pouvez taper sur Google Nokia papier toilette et vous allez voir des petits rouleaux de PQ avec une Nokia
en
dessus.
De 33
c'est les mêmes.
Ouais,
c'est sûr.
C'est vrai. C'est une entreprise de papier à la base.
Génial. Ah.
Si c'était marqué Nokia papier toilette hoax, c'était pas vrai. Hein.
On vous mettra une photo.
Non, c'est plausible.
J'ai une telle confiance que je vais chercher.
Ouais, vas-y, regarde.
Ah oui, effectivement. D'accord. Avec un petit lapin dessiné dessus. Très bien. Ok. Autant pour moi.
On apprécie la radiophonie de cette séquence.
Ouais.
On vous mettra
surtout que l'ordi
sur
est tourné, donc nous.
Et toi aussi, en plus, oui, ouais. Génial.
Eh bien, c'est tout pour moi.
Ah oui, ah d'accord.
Oui,
court.
Sujet
court.
Très court, ouais, efficace, ouais. Rapide.
Ah, le mec fait du cours, quoi.
Et bah, du coup, on va enchaîner sur le sujet de Hicham sur The Bigfoot.
Yes. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound.
Non, monsieur, c'est l'abominable homme des neiges.
Oh, she?
You are fake news.
Le Bigfoot. Alors, je pense que vous savez c'est quoi, enfin c'est qui ou quoi, on sait pas encore.
Ah, c'est qui, je connais pas le nom du mec qu'il y avait dans le costume. Mais...
Alors, en fait, c'est un géant bipède poilu qui est mi-homme et mi-singe.
Et re-mi-homme derrière.
Et
une référence à Camelot, pardon.
Ah, ok, oui. Bon, je te rappelle que j'ai grandi en Arabie Saoudite, donc. Je connais pas. Bref.
T'as déjà vu la pub de Banga?
Non.
Je te montrerai.
Donc ouais, il y a eu plusieurs légendes similaires qui étaient un peu partout dans le monde, qui ressemblaient un peu au Bigfoot, et ça depuis vraiment des siècles. Par exemple, il y a eu le Yeti, c'était dans les Himalayas. Il y a eu le Sasquatch, au Canada. Et puis il y a eu le Bigfoot. C'est vraiment les trois plus grands... Ils sont super connus. Et le Bigfoot, c'était aux USA. Donc, en gros, si on peut le décrire, d'après les témoignages, il a un large front, il a des sourcils bien prononcés et une grosse tête ronde, un peu comme un gorille.
Quelqu'un qui est en train de crever.
mais tête ronde, forcément.
Ouais, d'après toutes les personnes qui l'ont vu, ouais, c'est. Il a une.
Toutes les personnes qui l'ont vu.
Enfin, entre guillemets, ouais.
D'après les témoins.
C'est ça, d'après les témoins. Il mesure entre 2 mètres et 2 mètres 50. D'accord. Et sa marque de fabrique, c'est.
Qu'il a des grands pieds.
Qu'il a des grands pieds. Enfin, qu'il laisse des grandes empreintes de pieds.
C'est ça.
Et qu'il est toujours flou sur les photos.
il fait à peu près. Enfin, ses pieds mesurent à peu près 20 cm. Donc, c'est quand même énorme, quoi.
Oui, c'est pas mal.
Ouais, c'est. On se rapproche un peu de Shaquille O'Neal.
Pardon, je suis perplexe.
Pour les auditeurs, il y a Ilias qui est en train d'essayer de faire 20 cm avec ses doigts.
Bah, ça me paraît pas très très grand, 20 cm.
Ouais, pareil.
Inch plutôt.
T'as dû chier ta conversion. Ouais.
On va dire qu'il y avait des grands pieds. C'est peut-être un enfant ou un adolescent qui avait.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Alors,
c'est quand ils naissent, ils ont des pieds de 20 cm.
Voilà.
Bah, attends, je prends ma chaussure.
Pour l'accouchement, sa mère.
Ah, pour la science.
Mais...
Non,
mais non,
ça
j'avoue,
fait plus de 20 cm tes pieds.
Oui, bon, allez, 200 cm. Allez, juste pour toi. Excusez-moi. Il donc.
Allez.
Sérieux, les gars.
Je suis désolé, je vais pas y arriver.
Les histoires de cet homme sauvage existaient déjà depuis très très longtemps, depuis carrément avant la colonisation de l'Amérique. Donc il y en avait déjà chez les Amérindiens. Donc il y avait plusieurs versions différentes, ça dépendait des tribus et des familles. Mais t'avais le Bigfoot assez gentil qui bouffait le poisson de chez les pêcheurs. Enfin, qui
volait. Gentil Bigfoot,
donc voilà, le gentil Bigfoot. C'est pas gentil ?
Bah, si.
En même temps, il n'y a jamais eu d'enregistrement d'attaque de Bigfoot.
Enfin, non, mais chez les Amérindiens, il y a le gentil Bigfoot qui piquait juste le poisson. Il y a le méchant Bigfoot qui carrément bouffait.
Pique le pêcheur.
C'était le Bigfoot cannibale. Mais c'est ça.
Ouais, c'est voilà.
Et il bouffait carrément
les enfants. Du coup, je vais pas te demander si t'as le nom amérindien
non.
Du Bigfoot.
Non, désolé. Et ça, mais comme je t'ai dit, ça varie vraiment de chaque famille et chaque tribu, quoi.
Entre chaque famille.
Le Bigfoot, il devient célèbre en 1958 aux États-Unis. Le monsieur Gerald Crew trouve des empreintes dans un chantier en Californie. Et il l'a piqué, il l'a emplâtré et il l'a montré carrément à des scientifiques et tout. Donc ça a pris vraiment de l'ampleur. Et puis en plus de ça, ils ont fait un article dans le Humboldt Times. Et du coup, ça a explosé cette histoire. Mais en fait, les empreintes, c'était du fake.
Bah oui,
surprise.
Sans déconner.
Non, mais en fait, ça a été analysé et c'était un fake.
Là, je vais faire la minute blasphème de ouf. Mais en fait, la seule empreinte de pied grosse que j'ai vue, c'est quand on a vu la soi-disant empreinte de pied du prophète à Istanbul.
Bon. Putain.
Star fou là.
Je préfère ne pas parler de ce sujet-là.
On se désolidarise de Camille.
Donc, c'était un fake. Et puis, même le journaliste qui avait écrit l'article, et il avait même lui avoué que c'était un fake news.
Il avait pris un petit billet.
C'était l'ancêtre de Minute Buzz en fait.
C'est
mais il y a beaucoup d'histoires qui ont été dévoilées petit à petit avec le temps. Bah, c'est les bouquins Axolot de Patrick Beau qui en parlent sur plusieurs sujets, tous ces trucs-là qui ont été débunkés justement avec le temps. C'était les géants de je sais pas quoi.
Et Gergovie.
Non, enfin des statues de géants qui avaient été retrouvées, comme quoi c'était des géants momifiés alors que pas du tout. Hein ?
Sur l'île de Pâques ou rien à voir ?
Non, l'île de Pâques, rien à voir. Non.
Ok, merci.
Sinon, allez, bisous.
Très très bien.
Excuse-nous, reprends.
Mais bon, oui, voilà. Du coup, ça a quand même continué, même après que le journaliste, que l'histoire a été prouvée que c'était une fausse histoire, que c'était un fake news. Ils ont quand même. Les gens n'en démordent pas, ils ont quand même continué à y croire. Mm-hmm. Et j'ai regardé, il y a carrément une page Facebook qui s'appelle Bigfoot Hunters. Mm-hmm. Ils ont carrément 756 likes sur Facebook, s'il te plaît.
Putain, plus que nous, les bâtards.
Alors que nous on existe quoi, merde. Ça fait chier.
Mais il y a une photo très très connue du gars qui était de profil avec la tête retournée.
Bah justement, c'était en 1967, il y a eu la sortie du film Patterson Gimlin Film, qui était en North Carolina.
Caroline du Nord,
j'ai écrit North Carolina.
Il l'a tenté.
Sorry. Et c'est un enregistrement qui montre une grande personne poilue qui marche vers la forêt. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, enfin cette vidéo du Bigfoot qui marchait.
Absolument, oui.
Au début, je me suis dit, putain, c'est...
C'est quand même bien fait.
Ouais, c'est bien fait. Parce que voilà, quoi, le mec, il marche...
Oui.
Enfin, il a l'air grand en plus.
Il marche bien, quoi. Enfin,
ouais, c'est ça.
Il est sur deux pattes. Non, mais ça a été débunké aussi, ce truc.
Mais justement, donc Patterson, il l'avait montré au département des effets spéciaux de Universal Studios. Et d'après lui, donc on a que des. C'est pas Universal Studios qui en parlait, mais Patterson. D'après lui, ils ont dit qu'avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, enfin qu'ils avaient à l'époque, c'était pas possible, que c'était pas truqué.
Non, j'y crois pas.
C'était d'après Patterson.
Alors déjà, à l'époque, honnêtement, si je comprends bien, ils y croyaient pas trop. De nos jours, les mecs, ils font Avatar et il y a quand même 700 likes sur Facebook.
Ah, putain, 1960.
J'y crois pas.
Le mec s'en remet pas.
Mais du coup, les proches de Patterson, tout le monde le décrit comme un menteur, en fait.
Bah oui,
un menteur.
Un menteur.
Et en plus de ça, il n'arrêtait pas de changer sa version sur la taille du Bigfoot. Une fois, il faisait 2 mètres, une fois, il faisait 3, une fois.
Une fois, il avait
donc le gars n'était pas trop crédible, quoi. Donc,
un brigand.
C'est ça. Et en plus de ça, il y a plein de personnes différentes qui ont avoué carrément porter un costume pour le film. Donc le mec vraiment cramé jusqu'au bout. Mais jusqu'aujourd'hui, le film n'est toujours pas classé en film en fake.
Bah, peut-être parce que c'est trop gros.
Et franchement, je trouve qu'il est bien fait.
Ouais. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain. Et
c'est style documentaire, c'est...
Non, en fait, c'est Patterson et Gremlin, donc les deux, ils étaient en train de marcher dans la forêt, justement pour chercher ce fameux Bigfoot. Et comme de par hasard, ils tombent dessus.
Wow.
Ouais. Et ils l'ont filmé, et puis tu vois le Bigfoot qui marche. À un moment, il se retourne.
Tranquille, il leur demande une clope. Ils en avaient pas, donc pas de chance, il s'est barré.
Ouais, il se retourne, et puis il continue à marcher, il continue à faire sa vie. Et puis,
zéro,
ouais,
quoi.
Et puis aussi, il y a même eu en 2007, donc c'est assez récent, quoi, une photo automatique. Donc il y avait une caméra perchée en haut d'un arbre. Et tu vois une silhouette d'une personne très très poilue, un peu recourbée. Bon, moi, quand j'ai vu la photo, j'ai direct pensé à un ours.
Mais un Libanais ou un Portugais plutôt.
Oula, alors.
Gratos.
Non.
En tout cas, aujourd'hui, la légende du Bigfoot continue encore. Et
non, c'est pas
trop
quoi.
Non.
Mais comment dire, on en discutait, mais c'est pas possible de prouver que quelque chose n'existe pas.
C'est ça. C'est
en
ça.
Fait, on n'en sortira jamais. En tout cas, bon, on verra ce que ça va donner. Hein, mais on va passer à un truc un petit peu plus tangible. On a vu plusieurs fois des preuves de son existence. C'est Elon Musk, c'est Juan qui va nous en parler.
So many people tried to talk me out of starting a road company, it was crazy. Hello, I'm Elon Musk.
Dad!
What the?
Dad, no! Elon Musk is possibly the greatest living inventor.
Honey, guess who crushed me? I'll give you a hint. His first name is Elon.
Donc on va parler de l'homme qui a le plus de chances d'être Iron Man dans le futur. Cet homme c'est Elon Musk, est-ce que vous avez une idée de qui c'est ?
Pas du tout.
Non, pas du tout, je vais pas le dire.
Ah, je vois qu'il y a chacun une petite idée. Alors, Elon Musk en effet ressemble à Iron Man, parce que Iron Man, à part être un super-héros, qu'est-ce qu'il a ? Il a plein de pognon, il a une belle voiture, il envoie des trucs dans l'espace, il fournit d'énergie verte à toute une ville. Il passe pas loin de détruire la planète, je crois, mais Elon Musk, on n'est pas encore là. Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur la bonne voie.
On sait peut-être pas.
Elon Musk, il est né en 71 à Pretoria, en Afrique du Sud. Son papa était ingénieur et sa maman était mannequin. Il a été naturalisé américain en 2002. Déjà, quand il était tout petit, il a été testé par IBM à l'âge de 10 ans pour un genre de test de QI et un test de codage. Et il disposait à 10 ans des aptitudes de codage les plus impressionnantes qu'ils avaient jamais vues. Non pas qu'ils avaient jamais vues pour un enfant de 10 ans, mais qu'ils avaient jamais vues tout court.
Ouais, donc autant dire que le mec défonçait sa mère, quoi.
Qu'est-ce que tu appelles un test de codage ? C'était un test de programmation informatique ?
Oui, c'était un test de programmation sur un espèce de jeu vidéo assez basique. Il se basait sur la vitesse, la compréhension. Après, j'ai pas le détail du test.
Comme un test de QI, mais adapté au développement informatique.
Je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. C'est vous les experts. Moi, j'y connais rien. En tout cas, le gamin a vendu son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans. Donc, je pense qu'il touchait un petit peu.
C'est pas mal, j'ai toujours rien vendu,
n'est-ce
moi.
Pas à peu près à cet âge-là, donc, ils ont commencé à monter une salle d'arcade avec son frère. Ils ont réussi à réunir des fonds, ils ont réussi à trouver un local. Et au moment de signer le bail, ils ont été emmerdés parce que les bailleurs se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux mineurs et que leurs parents n'étaient pas au courant de leur projet de monter une salle d'arcade. Dommage. Du coup, ils sont partis faire un diplôme d'ingénieur, accepter à Stanford, on étudie, on se fait chier. Le but, c'est de se rapprocher de la Silicon Valley, parce que c'est là que les choses se passent à l'époque. C'est le nerf de la guerre. Donc, Elon Musk, il appelle son frère, il fait « Gros, on va monter une boîte, on va l'appeler Zip 2 ». Est-ce que Zip 2, ça vous parle déjà ? Donc, Z-I-P 2.
Non.
Ça ressemble au début du zip code.
Non.
Un algorithme de compression ?
Ça pourrait, mais non, ça n'a rien à voir avec le zip. Si je vous parle des pages jaunes, ça vous parle ?
Ouais.
Ouais,
là, ça va.
Les pages jaunes, on est d'accord que c'est un livre.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maintenant, il y a un site internet des pages jaunes.
Mm-hmm.
Eh ben, avant tout ça, il n'y avait pas un site internet des pages jaunes. Il y a un mec qui s'est dit, tiens, on va prendre toutes les données de toutes les entreprises qui existent, on va les référencer, on va les mettre sur l'internet et les rendre consultables. Ce mec-là, c'était Elon Musk, alors qu'il était à la fac.
Nice.
Oh.
Le garçon n'était pas trop con.
Est-ce que tu as l'année où il a fait ça ou pas ?
J'ai pas l'année, il me semble qu'il avait 26 ans quand il a fait ça.
Et il est né en quelle année ?
Il est né en 71.
Ah oui, donc c'était dans la pleine bulle.
Milieu 90, dans ces eaux-là, ouais.
Okay.
D'ailleurs, ils ont créé cette compagnie qui a pas trop mal fonctionné. On a parlé d'eux dans le New York Times et il y a plusieurs reprises. Et en 99, Compaq a racheté cette petite compagnie donc de deux jeunes pour 307 millions de dollars cash, plus 34 millions en actions.
Rien que ça.
Donc, comme ça, c'est joli. Il avait 28 ans. Il faut se rendre compte que donc, cette somme-là, ça représente 22 millions dans la poche de Elon Musk.
Faut avoir des grandes poches, là.
Vous touchez 22 millions à cet âge-là, vous faites quoi ?
Bah, je fais comme Elon Musk et je m'achète une grosse voiture.
Mm-hmm.
Voyage. Très très grosse voiture, là. T'es une Batmobile.
Une belle voiture. Faut savoir que Elon Musk aimait les belles voitures.
Je me dis que déjà j'achète une grosse baraque et j'achète des meilleurs micros. Bah, j'achète pour faire des podcasts avec mes amis.
J'achète une maison et des vacances à mes parents.
Je pense que la plupart des gens s'arrêteraient de travailler. Ouais. Tu pourrais investir, mais typiquement, je pense que tu t'arrêterais de travailler avec 22 millions.
Ça n'empêche pas d'investir.
Oui, il tourne, tout à fait. Donc, avec ses 22 millions, vu qu'il a gagné plein de pognon, il va réfléchir à ce pognon. Le pognon, c'est fait de billets, de pièces, de chèques. À l'époque, il faut savoir que les virements, c'est un peu relou à faire. Donc il va se demander si c'est pas un petit peu archaïque les virements bancaires. Est-ce qu'on va pas plutôt créer un système pour passer par ce nouveau moyen qui est
PayPal.
Non, Internet. Donc il va vouloir passer par Internet pour faire des virements, et sauf qu'il y a aucun moyen de faire ça à l'époque.
PayPal.
Ben non, pas PayPal, banque, c'est ça, justement. Non, il a pas créé de banque. Il a créé une boîte qui s'appelait X.com.
Ok.
Cette boîte-là qui avait pour but de faire des transferts d'argent numérique. X.com est plus tard devenu PayPal, donc arrêtez de faire genre que vous savez. PayPal, il a commencé à s'associer avec pas mal de sites internet à l'époque, on le voyait sur plusieurs sites de vente. Leur but en gros c'était de s'associer à eBay.
Ouais.
Ils ont fini par réussir à le faire, ils ont chopé le gros poisson, ils se sont associés à eBay et ils ont vendu PayPal pour, à votre avis ?
Cher.
Ouais, mais encore.
La première c'était combien déjà ? 200 millions ?
La première on était sur 307 millions.
Ah, pardon.
800 millions ?
Un peu plus.
Milliards.
Un peu plus.
4 milliards ?
Non, un peu moins.
2 milliards.
1,5 milliard de dollars.
Putain.
Donc encore une fois, 1,5 milliard de dollars, c'est la vente de la société. En sous-sous dans la popoche, ça veut dire 180 millions pour Elon Musk.
C'est toujours pas dégueu, hein.
Tu peux mettre autant de zéros que tu veux, il y a un moment, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond.
Oui, c'est vrai qu'on arrive à des chiffres qui sont difficiles à considérer.
Tu rajoutes des zéros, en fait. Hein.
Ouais. Ouais, mais c'est difficile de visualiser, en fait.
Bon, en fait, on va quand même rebondir sur le précédent. C'est tu fais quoi, toi, quand t'as 180 millions ? Moi, perso, je me calme.
Ouais.
Bon, lui, non. Il se dit plutôt, tiens, on n'est pas encore allé sur Mars. On en parlait tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on soit pas allé sur Mars ? Bon, bah, si personne ne le fait, je vais m'en occuper. Donc, je vais créer une compagnie en juin 2002 qui s'appelle Space Exploration Technologies. Et elle a changé de nom maintenant. Elle est beaucoup plus connue.
SpaceX.
Exactement. SpaceX, donc la première entreprise spatiale privée. Faut le savoir. Première mesure, donc pour avoir une société spatiale privée, donc qui ne bénéficie pas de toutes les subventions qu'a la NASA par exemple, il faut réduire les coûts. Alors de combien il a réduit les coûts à votre avis pour envoyer une fusée dans l'espace ?
Mais réduit les coûts par rapport à quoi ? Par rapport à un lancement en public ?
Par rapport à ne serait-ce que la conception d'une fusée.
Ouais, déjà moi je suis au courant qu'il a fait, il a demandé à un de ses ingénieurs, cette pièce-là elle vaut 100 000 balles, il faut que tu te démerdes pour qu'elle vaille 10 fois moins. Ah. Et le mec, c'était son taf.
En effet, c'était pas dit. On n'est pas arrivé à 10 fois moins, on est arrivé à 75% d'économie sur la fabrication de modules. Ça fait un peu flipper quand on pense au mec qui est assis dedans et qui va se retrouver dans l'espace.
T'inquiète.
Ah, tiens, une fusée discount, ça fait plaisir.
Elle est imprimée en 3D, vas-y. On...
vas-y, y'a pas de problème.
Il faut racler un peu les bords, mais ça passe.
C'est un charter pour l'espace, quoi.
Pour simplifier, en fait, Elon Musk a fait pour l'aérospatiale ce qu'a fait Henry Ford pour l'automobile.
Oh.
Il a créé une chaîne de fabrication, il a réduit les coûts, il a réussi à rendre ça privé, rentable, finalement. Donc il a commencé à travailler sur ses petites fusées, ils ont essayé d'en envoyer quelques-unes, ça marchait pas des masses au début, je vais pas vous le cacher, donc il a laissé tourner un peu la boîte, il est parti d'un autre côté et il s'est dit tiens, pour envoyer les fusées on a besoin de quoi ?
De l'argent.
Carburant.
De l'argent, oui, et du carburant. Carburant qui est issu
d'énergie fossile.
D'énergie fossile. Putain, tout à fait, bon. C'est chiant les énergies fossiles.
Et donc il s'est dit on va trouver une autre énergie.
Alors peut-être pas on va trouver notre énergie, mais on va travailler autrement. Donc il a allié son petit esprit d'entrepreneur à des solutions pragmatiques et il s'est dit pour les panneaux solaires, on peut alimenter des maisons avec des panneaux solaires. Comment on fait pour économiser de l'argent ? Bah si on améliore légèrement quelque chose sur 100 étapes de production, on améliore 10%. Eh ben en fait on fait des économies qui sont énormes derrière. Donc il a pu rendre le panneau solaire moins cher et plus efficace. Il a créé une société qui s'appelait, enfin il l'a créé. Il a créé avec ses cousins, il faut savoir que la société appartient à ses cousins, c'est une société qui s'appelle Solar City.
C'est la MIF.
D'accord.
C'est la MIF et c'est devenu rapidement le plus gros générateur d'énergie solaire sur le territoire américain. Je pense que Elon Musk est encore chairman of the board actuellement, donc je sais pas comment on dit en français.
Ouais,
non,
ça,
c'est
ouais,
pas CEO, c'est chairman, c'est vraiment.
Mais il gère le conseil
président du conseil, voilà.
En gros, il peut décider de. Pas décider de dégager le CEO, mais il a un gros gros pouvoir au conseil d'administration.
Exactement. Solar City, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'ils ont fait une grosse opération de com' récemment sur les décors de Desperate Housewives.
Ah bah non.
Où ils ont amené plein de gens dans la rue de ce décor, ils ont fait bon, bah qu'est-ce qui a changé ici ? Potentiellement rien, et ils ont expliqué à tout le monde que bah voyez les tuiles qui sont là, qui sont des tuiles normales, qui sont couleur normale, bah ce sont toutes des tuiles solaires, parfaitement fonctionnelles. Donc ils ont réussi à créer des tuiles solaires plus durables, esthétiquement correctes, et qui peuvent être accumulés, on y reviendra de quelle manière. Donc Solar City qui maintenant est géré par les cousins.
Est-ce que quelqu'un veut faire la blague sur MC Solar City ou pas?
Non, personne.
Non, on va la passer.
Là, ça va peut-être vous parler si je vous parle de voiture électrique.
Tesla, ouais.
Tesla,
ouais.
Voilà. Tesla, bah, c'est aussi Elon Musk. Oui.
Oh la vache.
Putain, mais le mec s'arrête ouais. pas, quoi.
Exactement.
Non, c'est des défauts, monsieur. C'est chaud.
Il n'a pas de femme, alors je pense que oui.
Il a été marié 2 fois et il est toujours avec sa deuxième femme.
Ah bon?
Pour le moment.
Bah, je crois.
À vérifier.
Ok. Suite,
au prochain épisode.
À vérifier, je sais qu'il a divorcé une fois, mais.
Tu dis ça à chaque épisode.
Puis finalement, on s'en double pète de s'il est marié ou pas. Donc, comment on fait pour faire une start-up de voitures électriques dans la Silicon Valley? Alors qu'à côté, il y a quand même General Motors. Pour faire sortir le machin, c'est pas évident. Ils ont une idée assez maligne. Ils se sont dit, on va pas faire des voitures pas chères. On va faire une voiture de sport de ouf.
Twingo.
On va la vendre très cher. On va plutôt être sur la Tesla Roadster qui coûtait dans les 100 000 $. À l'achat.
Ah oui,
100 000 $.
La vache.
Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, personne ne va vouloir acheter une bagnole bas de gamme, personne ne fait confiance à électrique, on va faire une voiture de sport avec des grosses performances qu'on va vendre bien cher juste histoire de se la péter, parce que les personnes qui ont acheté cette voiture-là, finalement, c'était qui? C'était bah, George Clooney et consorts, je ne sais plus exactement qui l'avait acheté.
Des mecs qui avaient de la maille et qui voulaient avoir la classe.
Les mecs qui avaient du viewership surtout. On savait qui c'était, ils ont une Tesla, tiens c'est quoi cette voiture?
Viewership ça veut dire qu'ils sont vus et
ils ont une visibilité.
Ils sont influenceurs.
Ouais. Okay. Stratégiquement derrière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a bien fait comprendre qu'on pouvait faire des voitures performantes? On va faire un modèle intermédiaire, plutôt dans les 50 000,
oui.
Qu'on va appeler la Tesla Model S, ça va être une berline de moyenne gamme. Et le but final, c'est de faire une voiture que tout le monde peut acheter. On n'a pas encore atteint ce but-là de nos jours, faut le savoir. Ils se sont pour l'instant arrêtés au modèle S, je crois qu'ils ont essayé de fabriquer un camion aussi. Enfin, ils ont continué cette petite entreprise-là, faut savoir que ça a failli se casser la gueule plusieurs fois quand même, hein. C'était pas tout rose parce que bah, on peut pas révolutionner l'univers automobile du jour au lendemain, surtout qu'à ce moment-là, on est en 2008, et il se passe quoi en 2008?
La crise.
On est en pleine crise économique. Et qui s'est cassé la gueule en 2008?
Nous.
General Motors. La plus grande société de fabrication automobile au monde se pète la gueule. Derrière, t'es une start-up de la Silicon Valley. T'as intérêt à t'accrocher. Pour SpaceX aussi, d'ailleurs, c'était pas la joie. Donc, après 3 essais, impossible d'envoyer une fusée dans l'espace. Mais à la 4e,
ça marchait.
Win.
Et ah, je crois que c'était l'argent, enfin l'argent qu'ils avaient.
Pour l'argent des abonnés.
C'était le dernier. En gros, c'est, si là Exactement. Ça marche pas, on arrête, tant pis, c'est fini.
Faut savoir, c'est ce qui fait de Elon Musk un business angel aussi, c'est qu'il a en fait investi jusqu'à son dernier sou, tous ses bénéfices de vente personnelle, il les a réinvestis pour sauver Tesla, pour sauver SpaceX. Et donc, à la 4e fusée, Falcon 1, ils ont réussi à l'envoyer en orbite.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, il me semble qu'il y a, il y a eu des interviews de lui, donc une où il disait qu'il encourageait les gens à entreprendre, parce qu'il expliquait justement son cheminement en tant qu'entrepreneur. Il disait que voilà, la première fois, ça n'a pas marché, ils ont duré 2 mois, 3 mois, la deuxième fois, 6 mois, la troisième fois, c'était mieux, 7 mois, etc. Et de fil en aiguille, il disait, bah, voilà, et puis la 6e, c'était quoi? Bah, c'était PayPal. Et effectivement, le mec, il sait, en fait, c'est un acharné. Il a essayé, là, tu parles de ses succès, entre guillemets, même s'il a eu quelques déboires. Mais en fait, il a essayé beaucoup de choses différentes. Et enfin, le mec, c'est un ouf.
Et il a pas foiré tant de fois que ça.
Il a un mental de taré, quoi. Enfin,
absolument.
Mais je vais te couper la parole, Juan, désolé, pour rebondir sur ce que tu disais, Elia, c'est sur le fait qu'Elon Musk, c'était un mec acharné. Elon Musk, pour se détendre, il s'est dit, tiens, je vais jouer au truc de tennis sur la Wii, là, en ligne. Il a fini premier mondial. Comme il s'est dit, je le fais.
Dans le plus grand des calmes.
Pour me détendre, je vais devenir premier mondial.
Ouais, okay. C'est ça. Le mec est sur des terres.
Donc, pour en revenir à SpaceX, ce 4e envoi réussi leur a permis de signer un contrat de 1,6 million de dollars avec la NASA pour ravitailler l'ISS. Aujourd'hui, c'est SpaceX qui ravitaille l'ISS.
La classe.
Avec des modules gonflables, des choses comme ça, puisqu'ils ont la capacité aujourd'hui d'envoyer une fusée, mais de la faire redescendre.
Oh.
Et de la faire atterrir sur une surface de moins de
10 mètres.
C'est possible.
Ils ont réussi pour la première fois il y a quelques temps. Là, maintenant, ils ont un taux de réussite assez étonnant. Et ils sont capables surtout de la rendre opérationnelle à nouveau.
C'est ce que j'allais dire. Elle est réutilisable, la fusée.
Alors, j'ai pas le temps exact. Je me souviens pas. C'était son objectif. C'est quoi l'intérêt de pouvoir redescendre si on peut pas repartir directement?
Oui, bien sûr.
Parce que son but, son rêve, finalement, c'est de pouvoir ravitailler Mars.
C'est surtout qu'on perd beaucoup moins d'argent en faisant ça.
Et absolument.
En attendant, si vous voulez checker l'Instagram d'Elon Musk, il est vachement bien, il filme pas sa bouffe, il filme pas son chat, il filme des fusées qui décollent et qui atterrissent et
c'est
qui
vrai.
Parfois se foirent.
Absolument, c'est vrai que des fois ça se foire et malheureusement bah, c'est le tarif, ils font comme ça. Alors on va passer rapidement sur différentes sociétés slash idées de Elon Musk. Si je vous dis le Powerwall, est-ce que ça vous parle? Mur d'énergie.
Ça me dit un truc. C'est pas en rapport avec Donald Trump.
Tout va vous dire un truc, je pense, mais il n'y a pas de rapport avec Donald Trump.
Ah si. Non, c'est pas ça.
Non.
Il voulait construire un mur et puis avec le panneau solaire, c'était ça, toi aussi.
Ah, exactement. Ça, c'est très récent.
C'est pas le CEO, enfin l'ex-CEO de Oculus VR qui voulait faire ça.
Absolument. En fait, Tesla avant était dans le conseil technologique de Donald Trump. Il s'est barré. J'en ai marre de ces conneries. Il est parti. Non, le Powerwall, il faut voir ça comme une espèce d'onduleur pour maison. C'est-à-dire que couplé avec les tuiles, ça va accumuler de l'énergie en cas de coupure de courant, de quoi que ce soit, c'est capable d'alimenter la maison pendant un certain temps. Donc ça, c'est une petite start-up qu'il a fait. Dans le même genre, il a aussi planifié les Gigafactory, ça vous parle ou pas ?
Pas du tout.
Gigafactory, c'est un projet de création d'énergie qui pourrait, si on construisait 100 Gigafactory, alimenter le monde entier avec de l'énergie propre.
Voilà. Une Gigafactory, t'as une idée de la taille ?
100 mètres carrés, non, c'est plus que ça.
Ça fait la taille de l'Afrique.
Non, c'est tout à fait réalisable. C'est pour ça que le projet est étonnant, c'est que c'est tout à fait réalisable. Le seul problème qu'il rencontre, j'ai pas pu vérifier l'info, mais c'est se fournir en lithium. C'est le problème de l'énergie électrique.
Ah oui, quand tu dis énergie
propre, c'est nucléaire. Propre. Non.
Non, on est sur de l'énergie électrique, mais il faut quand même du lithium pour tout ce qui est batterie, etc.
Pour moi, lithium, c'est une chanson de Nirvana. Hein.
Ok. Ensuite, il a une autre société qui s'appelle The Boring Company, donc la société ennuyeuse.
Ah, c'est génial ça.
Ah bah vas-y, parle-nous-en.
Elon Musk, il était dans les bouchons, et il s'est dit, putain, ça me casse les couilles d'être dans les bouchons, nique sa mère, je vais faire une boîte qui va faire un gros tunnel et on va passer en dessous de tout le monde.
Alors en effet, il y a plusieurs tunnels, en fait, l'idée c'est il a réfléchi à qu'est-ce qui fait le plus chier les gens dans la vie de tous les jours, dans son microcosme de la Silicon Valley, c'est les embouteillages. Les gens prennent faut savoir ce que c'est les bouchons à Los Angeles, du coup il veut créer un réseau de tunnels, en calculant sur la profondeur et les faire les plus étroits possibles, et qu'en fait on est des espèces d'ascenseurs, des espèces de, faut voir ça comme des skateboards magnétiques, on se gare dessus et au moment où on se gare dessus, la voiture va descendre, entrer ce réseau de tunnels et se déplacer à une vitesse phénoménale, c'est-à-dire qu'on pourrait passer du centre de Los Angeles à l'aéroport LAX en moins de 10 minutes à peu près.
Le truc de Hyperloop là, non ?
Alors c'est pas Hyperloop, mais on va en parler.
Je connais pas Hyperloop, mais moi ça me fait penser à Aerobot, le film.
Oui, c'est assez similaire en fait. On peut retrouver un petit peu le même concept, sauf que là ils sont dépendants de toucher le sol, alors que là sur les tunnels on serait vraiment sur quelque chose de magnétique, donc on n'aurait plus vraiment le contrôle de la voiture. Donc ça, c'est une compagnie qu'ils ont démarré assez récemment, donc c'est vraiment l'état de projet. Il est en train de creuser ça dans son jardin pour l'instant pour tester si ça marche. Son jardin fait 80 000 hectares, mais voilà, il teste ça dans son jardin, il le fait vraiment, c'est vraiment en cours. Tout comme Hyperloop qui a été testé sur des terrains privés. Hyperloop, est-ce que ça vous parle ou pas?
Ouais.
C'est un TGV subsonique.
Subsonique,
donc un tube capable de se déplacer à 1200 km/h en transportant des passagers dans une petite capsule projetée. Ça peut aller potentiellement plus vite qu'un avion. Voilà. C'est quand même pas mal. SpaceX, on en a parlé, donc a fait des dizaines de missions et peut maintenant faire réatterrir ses fusées. Si je vous dis OpenAI,
Artificial Intelligence.
Oui. OpenAI. Donc c'est pas une société, c'est un centre de développement, un centre de réflexion, un peu comme une pépinière de start-up sur l'intelligence artificielle pour développer ça, et notamment parce que dans l'intelligence artificielle, ils ont créé une société qui s'appelle Neuralink, qui est pour moi la plus ouf. Neuralink, ça vous parle pas du tout ?
Ça fait penser à les réseaux de neurones, c'est une forme d'algorithme qui permet de réfléchir.
Neuralink, en fait, ça vise à développer des composants électroniques qui pourraient être intégrés au cerveau, par exemple, pour augmenter la mémoire virtuellement, ou piloter des terminaux à distance, pour mieux marier, en gros, le cerveau et l'intelligence artificielle.
Donc là, c'est plutôt des interfaces neuronales que des réseaux de neurones.
Oui.
Ouais, exactement.
Sachant qu'on peut mélanger les deux.
Il faut savoir que Elon Musk ne rigole pas avec le fait de pouvoir sortir un produit. Il ne balance pas une idée en l'air, il sort un produit et là il nous promet avec Neuralink un produit efficace d'ici à 2020. Potentiellement tu pourrais augmenter ta mémoire comme la RAM d'un ordinateur.
Ah putain, j'en
de
veux,
manière
quoi.
Virtuelle. Donc là on attaque le transhumanisme.
J'ai oublié ce qui s'est passé hier quoi.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Elon Musk, c'est pas juste un type avec de grandes idées, c'est un type qui investira jusqu'à son dernier centime pour faire en sorte que ses idées se réalisent. Et je vais vous donner une petite citation de ce monsieur, parce que j'aime bien finir avec des citations. Je ne prétends pas être le sauveur de qui que ce soit, je veux juste pouvoir penser au futur sans être triste.
Merci Juan pour ce sujet.
Super fat.
C'était cool.
C'est un mec ultra brillant, impressionnant. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans tout ce qu'il entreprend, en fait, c'est pas mal de choses qui servent la communauté en fait. Parce que ça
voyager vient... en mar... enfin il a envie, c'est lui aussi qui voulait qu'on habite carrément
qu'on aille habiter sur Mars. En fait, SpaceX a pour racine le fait de vouloir coloniser Mars parce qu'il s'est demandé mais pourquoi on est cantonné à la Terre, et en gros le fait d'être cantonné à la Terre est extrêmement déprimant pour ce garçon, et lui il voit pas le futur de l'humanité autrement que dans l'exploration spatiale en fait. Donc en attendant, il essaie de faire en sorte qu'on se débarrasse des énergies fossiles pour qu'on ait le maximum de temps sur Terre pour pouvoir aller voir ailleurs.
Et ça me fait beaucoup penser au cycle des robots d'Asimov.
Oui.
Parce que d'un côté, les trucs qui permettent de se déplacer, où eux ils avaient des tapis roulants, ou le fait d'aller coloniser d'autres planètes, etc. En fait, c'est une dystopie, mais c'est proche, enfin, c'est assez proche. On le verra peut-être de nos yeux.
Le transhumanisme, c'est impressionnant comme c'est proche. Moi, c'est un sujet qui me fascine, on en parlera peut-être un peu plus en détail une autre fois. Mais...
Ah oui, c'est assez ouf. Bah, super chouette, là, on va passer. À Karim.
Est-ce qu'un jour tu diras ton sujet c'était de la merde, franchement on fait plus jamais ça?
Ouais, là on va passer au sujet de Karim.
Ouais, ça va être le meilleur.
Sur les personnalités.
Ouh. Wingardium Leviosa.
Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa.
Suite Dr House, le médecin de votre fils.
Mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir?
C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui.
Jingle de l'enfer.
Bon, du coup, vu que là on commence à être un petit peu connu dans le monde des podcasts.
Pas du tout.
La podcastosphère.
Du tout non plus.
Dire.
Tu non, toujours pas. Tu veux.
Du coup, on va faire un peu comme le magazine Cosmo, et puis je vais vous parler des tests de personnalité. Donc je pense qu'à ce rythme-là, Ilias, dans deux semaines, tu nous fais un petit sujet sur comment perdre des kilos avant d'aller sur la plage cet été.
Oh.
Je l'attends avec grande impatience.
Bien sûr.
Donc, moi je vais vous parler des différents types de personnalités. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que la personnalité de quelqu'un? Moi j'ai noté trois petits tirés, mais j'aimerais bien voir si on est d'accord et si moi-même je peux apprendre des choses.
Allez.
Tiens Ilias, toi qui fumes par exemple, qu'est-ce que tu penses de la personnalité?
Qu'est-ce que je pense de la personnalité de quoi dans
pour
la personnalité?
Pour toi, c'est quoi la personnalité de quelqu'un?
C'est un ensemble de traits et de tendances, de comportements qui vont définir une personne.
Ouais. Du vécu et du mimétisme.
Moi, j'ai noté, c'est ce qui différencie l'intensité de la réaction à une situation. Putain, c'était super dur à dire.
D'accord.
J'ai rien compris du tout.
Mais tu sais, quand il y a un truc qui va énerver quelqu'un, et puis il y a un truc...
Genre ton sujet là tout dit.
Ouais, par exemple. Et Camille, tu vois, là, elle s'en fout. Elle dit, oui, mais laisse-le, tu vas voir. Exactement. Il va s'ouvrir, laisse-le venir à toi.
Mais bien,
venir à nous.
Donc en gros, ça va définir comment tu vas réagir à une situation et avec quelle intensité.
Ouais, pour moi c'est ça. Et tu vas pouvoir prévoir, expliquer des comportements et puis aussi définir ce qu'une personne va aimer faire ou pas.
C'est ce qui fait aussi que tu aimes quelqu'un ou pas. Enfin,
c'est sa personnalité.
C'est pour sa personnalité.
Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui aime bien écouter, quelqu'un qui est rigolo. Voilà. Ouais.
Juan,
Monica, des avis sur les différents types de personnalités, sur ce qui est une personnalité? Non,
on a
okay,
une appréciation
merci.
Différente des personnalités. Moi j'adore les gens qui sont chiants comme la mort.
Ah ouais?
Ouais.
C'est-à-dire?
Parce que les gens qui parlent le moins, c'est les gens qui ont le plus à dire, mais ils réfléchissent avant de parler.
Contrairement à moi.
Ouais, par exemple.
Moi je vais vous parler du Myers-Briggs Type Indicator. C'est le MBTI. Ça a été fait en 1962 par Isabelle Briggs Myers et Catherine Cook Briggs. Catherine, c'est la mère d'Isabelle. Donc,
okay.
C'était la mère et sa fille. Qui ont défini un test. Lors de ce test, on va vous poser des questions qui vont définir pour quatre catégories différentes deux choix possibles. Ça devient un petit peu compliqué. En gros, il y a quatre questions principales. Les questions principales, ça va être d'où est-ce que je tire mon énergie, comment je recueille les informations, comment je prends mes décisions et quel est mon mode d'action préféré. On va maintenant les détailler. Donc la première question, c'est d'où est-ce que je tire mon énergie? Il y a des personnalités qui sont, selon ce test, de type extraverti et d'autres de type introverti. Il y a des gens qui vont aimer faire un brainstorming pour que les idées fusent et pour les aider à réfléchir. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'être seules pour pouvoir se concentrer. Il y a des personnes qui vont bien aimer faire un petit after work avec les collègues après le boulot pour se détendre. Il y a d'autres personnes que ça va fatiguer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou dans l'autre de ces personnalités?
Non, un petit peu avec des nuances. Mais en gros, si je comprends bien, il y a quatre paramètres. Et après, on va être à un extrême ou à l'autre. Et suivant où on va se retrouver sur ces quatre paramètres, ça va définir notre personnalité, notre profil.
Parce que dit comme chaque paramètre est quand même vachement manichéen, j'ai l'impression.
Ouais. Oui. Après, c'est de manière plus générale, en fait. Est-ce que ça te repose d'y aller ? Est-ce que tu aimes bien être avec d'autres personnes quand tu réfléchis à quelque chose ? Ou est-ce que tu puises ton énergie dans la solitude et le repli sur soi et la concentration ?
Je parlerai que pour moi, mais c'est très variable. Donc du coup, il faudrait que, à mon avis, passer les quatre... les quatre paramètres pour savoir où je me situe. Parce bien qu'avec sûr, mais... ce paramètre-là, je suis assez perdu.
Alors, l'autre paramètre, c'est la façon de recueillir les informations. C'est soit sur le sentiment, soit sur l'intuition. Le sentiment, c'est se baser sur ce qui a déjà été fait. Et l'intuition, c'est ce qu'on a au fond de soi et se dire « Ouais, mais moi, je pense qu'on pourrait faire différemment. » Typiquement, je pense que Elon Musk, c'est pas un mec qui est vraiment sentimental, mais plutôt un mec qui est intuitif. Qui va vouloir révolutionner les choses et dire j'en ai rien à foutre que ça fasse 40 ans qu'on ait fait comme ça, moi je le sens et on va faire différemment et ça va marcher.
Ouais, il a des idées, il les pousse quoi.
Ouais, je pense que ça, il fait confiance à sa propre intuition. La manière de prendre les décisions, il y a deux façons différentes. Donc on retrouve aussi le sentiment, mais on a aussi la pensée. Pour caricaturer, c'est je réfléchis soit avec ma tête, soit avec mon cœur. La personne qui va être plutôt du type pensée va être critique, l'autre personne va être plus sentimentale, elle va vouloir être un petit peu plus diplomate, alors que la personne qui pense, elle va être très très directe. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on avait fait à Elon Musk, qui était beaucoup trop direct dans les retours qu'il faisait aux gens. Oui. Et c'est pas forcément agréable de travailler avec une personne comme ça, ou d'avoir un chef comme ça quand on est quelqu'un de sensible.
Ou avec Dr. House.
Ou avec Dr. House. En gros, le mec qui pense, il va dire c'est vrai ou c'est faux, et la personne qui va être plus sentimentale, elle va dire j'aime ou j'aime pas. Ça va être beaucoup plus nuancé. Et le mode d'action, la dernière catégorie, c'est le jugement, et l'autre, c'est la perception. La personne qui va être juge, elle va préférer prévoir, et la personne qui va être perceptive va plutôt préférer improviser. Typiquement, ça va être est-ce qu'on fait une liste de tout ce qu'on va faire, ou est-ce que sur place, on verra bien, on improvisera, et t'inquiète pas, on va s'en sortir, on va bien rigoler.
Ah, ça me rappelle des gens.
Ouais, ça, c'est typiquement la personne avec qui tu te retrouves coincé sur le côté du périph' avec une roue crevée. Ouais. Non, mais ça va aller, t'inquiète.
Ça va le faire.
Donc,
c'est clairement pas ma personnalité, pour le coup.
Mais sachant quoi, ce qu'on dit, ce qui est rigolo, c'est que tu peux avoir un comportement intuitif d'un côté, mais vachement plus prédictif, non ?
Pragmatique.
Pragmatique de l'autre. Et après ça va être une tendance, mais ça va pas déterminer ton comportement de manière ultra directe pour autant.
Oui, on n'est pas des robots, il n'y a pas que 16 personnalités dans le monde, mais c'est des tendances quoi.
Exactement.
Tu m'as niqué ma question.
Oh, pardon.
Alors du coup, vu qu'il y avait 4 catégories différentes et à chaque fois 2 possibilités, si vous êtes fort en maths, vous allez deviner, vous allez calculer combien de types de personnalités différentes il existe selon le texte MBTI.
Bah tu l'as dit,
16. De puissance 4.
16.
Et donc, ces personnalités différentes, elles ont des noms. Par exemple, il y a le visionnaire, le gardien, l'exécutant, l'artiste, le charismatique.
Rappelle-moi, qui a écrit ça ?
Un jeu de société, genre un jeu de rôle. Quoi,
ouais.
Bah, c'est un peu ça, en fait.
Rappelle-moi, qui a écrit ça ?
Catherine et Isabelle,
Myers-Briggs.
Ça me fait penser, en fait, moi, j'avais un ami qui est assez cartésien et qui n'était pas trop, justement, test Biba Magazine, etc. Et qui, après avoir fait ce test, s'était dit « Putain, c'est fou, après avoir fait ce test, le descriptif qu'on a fait de ma personnalité était vraiment très, très juste, ou en tout cas très pertinent. » Et la plupart des gens à qui, en fait, j'ai fait essayer ce test étaient assez bluffés par le résultat. Et c'est vrai que c'est assez fou, et bah, après, c'est éprouvé, c'est pas tout récent comme test.
Non, c'est les années 60.
Voilà.
Et ça se base sur des études qui ont été faites bien avant.
Faudrait que je le tente, moi, parce que je suis assez dubitatif, enfin, pas dans le test lui-même, mais dans la modularité de la personnalité. Moi, je sais que je vais rentrer chez moi un soir, bon, pas au point de la bipolarité, mais la personnalité va beaucoup changer en fonction de beaucoup de paramètres.
La question, c'est, t'arrives en soirée, est-ce que tu te mets contre le mur et t'attends que ça se passe, ou est-ce que tu vas au milieu de la pièce?
Ça va dépendre de la soirée, ça va dépendre de mon état d'esprit.
De manière générale.
De manière générale, socialement, non. Je vais potentiellement essayer de passer un bon moment, de m'intégrer. Mais
est-ce que tu aimes bien rester tout seul chez toi et ne rien faire et ne pas interagir avec les gens?
Aussi. Mais le problème, c'est que voilà, en même temps, j'aime bien typiquement être avec vous et faire ce podcast.
Voilà.
Et mais aussi vous laisser après être tranquille chez moi.
Et ça, c'est seulement un paramètre. Ça va aussi beaucoup se baser sur comment tu prends des décisions. Je trouve que les paramètres,
il se base plus sur comment tu réfléchis, est-ce que tu suis plus ton instinct,
oui,
est-ce que tu réfléchis plus, est-ce que t'es bien planifié les choses. Et honnêtement, par rapport à être à un extrême ou à un autre, moi j'ai fait le test 150 fois, je tombe toujours sur le même résultat, mais je me retrouve pas forcément complètement dedans. Et quand je lis d'autres profils, je m'y retrouve beaucoup plus et je me rends compte que j'ai vraiment le cul entre deux chaises, quoi, voire entre trois.
Alors que moi, pour le coup, j'ai fait le test 150 fois et je suis tombé 150 fois sur le même truc. Moi, mon profil, c'est ENTP, donc si je lis le résumé, c'est j'aime bien les afterwork, j'aime pas faire comme tout le monde, je suis rationnel dans mes prises de décision, j'aime l'improvisation, je suis insoumis à l'autorité.
Putain, c'est globalement ça. Finis tes sujets avant qu'on commence l'enregistrement, bordel.
C'est le même type de personnalité que Dr. House et Tyler Durden dans Fight Club.
Oh, putain, l'enfer. Ouais.
C'est pour ça qu'il y avait Dr. House dans le générique. En gros, moi, si au taf et il faut que je suive un chemin tout tracé, ça va me faire chier. Je préfère trouver la solution que la réaliser. Je déteste les listes, que ce soit les listes de courses, les listes de vacances, suivre un plan et tout, ça me fait chier. Ce qui tombe bien, c'est que Monica est ici présente. C'est une ESTJ, donc c'est exactement l'inverse. Elle aime bien tout prévoir, tout organiser, apprendre avec méthode, respecter la loi, comme Hermione. Et on va partir en vacances tous les deux, donc ça va être super gaulerie.
Alors je vais me permettre de poser une petite question, parce que tu as comparé ta personnalité à celle de deux personnages de fiction. J'aimerais bien savoir comment tu fais passer un test de personnalité à deux personnages de fiction.
Bah justement, c'est parce que c'est facile et on se dit comment Dr. House réagit dans une telle situation. Par exemple, il est très très direct. Il est très très critique, il n'est pas du tout empathique, il a besoin de personnes avec lui le matin pour réfléchir, même si derrière il les insulte.
Et juste pour rebondir justement, en fait, ESTJ, je m'y retrouve, mais je suis plus ESFJ et...
Moi je suis plus OSEF.
Un site assez sympa qui présente ça de manière assez, assez agréable. Ça s'appelle 16 Personalities en anglais. Si vous parlez bien anglais, c'est assez bien présenté et honnêtement les feedbacks sont vraiment ouf. Et
du coup, je voulais aussi parler d'un autre test qui ressemble beaucoup.
C'est quoi?
C'est l'Ennéagramme. Et là, c'est pas 16 personnalités mais 9 et il y a aussi des petits noms et c'est exactement le même type de test et c'est super intéressant, c'est vachement c'est aussi précis. Ouais. Parce que ça te donne une nuance en fait à une des 9 personnalités dominantes qui est couplé à une deuxième, et je trouve que ça donne des résultats un petit peu plus nuancés et tout aussi intéressants.
Du coup, tu t'y retrouves plus, et du coup, tu préfères celui-là?
J'aime les deux tout autant.
Laisse-moi deviner, Elias, t'as trouvé ce sujet cool, non? Sympa, super intéressant.
Super intéressant. Bah non, il était nul à chier. Mais allez vous faire foutre. Pour ma part, je vais vous parler, je vais vous faire une petite description des insultes, etc. Vous donner un peu d'infos sur l'origine des insultes qu'on utilise tant.
Un peu de grain à moudre dans votre fils de puterie.
Allez, chier, un petit effort, balancez-vous une bonne insulte, quoi!
Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère.
Loupé! Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi.
Alors, déjà, comment j'ai eu l'idée de ce sujet? Petite anecdote pop, il y a la saison 3 du Bureau des Légendes qui est sortie. Et est-ce qu'il y en a autour de vous qui l'ont regardé ou qui regardent le Bureau des Légendes?
Toujours pas.
Non.
Alors, ça parle, je vais faire très très court, de la DGSE et des agents qu'ils envoient à l'étranger. Et ils envoient des agents, en fait, ils leur donnent des noms de code. Et ces noms de code sont basés sur les injures du capitaine Haddock.
Kassovitz, c'est une injure.
Alors, Kassovitz, ça va être malotru. Il y a un des grands patrons, ça va être Moule à Gaufre. Il y a Phénomène aussi, etc.
Donc c'est Moule à Gaufre.
Moule à Gaufre, ouais. Et il l'appelle Mag, Moule à Gaufre. Donc c'est assez rigolo. Et du coup, je me suis demandé, bah tiens, on balance plein d'insultes, mais on sait pas forcément ce que ça voulait dire à la base. Parfois c'est pire et parfois pas. Donc on va commencer par, déjà pour inaugurer ce sujet, par une petite insulte du capitaine Haddock qui est.
Machibouzouk.
C'est pas loin.
Non, mais t'es complètement malade, toi. On a les mecs dans la main et toi tu fais le zouave.
Zouave.
Est-ce que vous savez d'où ça vient?
Mais ça vient pas de l'Algérie française ou du Maroc français?
Ouais,
enfin, c'est ça. Hein. C'était les combattants maghrébins dans les tranchées.
Voilà, en fait, pas forcément
dans les tranchées. Mais qui venaient combattre en France pour les guerres françaises, non?
Ouais. Alors plutôt des combattants de France et d'Afrique du Nord qui venaient combattre à divers endroits, mais donc, notamment en Algérie, ce qui posait d'ailleurs problème à ce niveau-là. Et en fait, il faut savoir que ces bataillons, après ça a été repris dans d'autres pays, mais ces bataillons en particulier avaient la réputation d'être exagérément disciplinés. Et en fait, on disait qu'ils étaient un peu abrutis par cette discipline. Donc on disait qu'ils étaient, fais pas le zouave, fais pas l'idiot. Ils étaient devenus idiots par cette discipline excessive.
Dommage, vieille baderne, parce que j'ai pris du grade cette année. Je ne fais plus les mêmes petites erreurs d'étudiant que je faisais l'année dernière. Et j'apprécierais que vous cessiez de hurler sur moi devant mon patient. Vieille baderne. Vieille baderne.
Scrubs. Baderne.
Ah, mais juste pour la petite référence à Scrubs, comme dit Juan.
Ah, c'était Scrubs, mais c'est horrible en français.
Non.
Ah,
oh, meilleur VF de tous les temps.
Non, c'est Malcolm.
Non, meilleur VF de tous les temps.
Autre sujet, bref. Mais c'est. Bref.
Ah non, mais c'est trop bien. Et du coup, alors, c'est pour le petit côté nostalgie que je sortais ça. Est-ce que vous savez d'où ça vient, vieille baderne? N'hésitez pas si vous avez les infos, hein, balancez-les.
Alors, il faudrait qu'on ait la définition de baderne.
Alors, justement, ça vient du provençal baderno. En fait, c'est une tresse de vieille corde. Et globalement, surtout principalement les marins, ils donnaient cette appellation pardon, aux choses ou personnes qui étaient hors d'état de servir. Donc, en gros, c'était trop vieux pour fonctionner.
Ça veut dire vieux con, quoi, en gros.
Bah, surtout vieux con et dépassé par le temps, en fait, has-been.
En gros,
c'était le has-been de l'époque.
Désuet.
Voilà. Ah.
Et on l'a aussi donné comme titre.
Tu es tombé en désuétude, je suis désolé, je te coupe absolument la parole.
Tu es tombé en désuétude, vieille baderne.
Et on l'a aussi donné comme titre honorifique aux officiers qui partaient à la retraite.
C'est un crétin, mais un crétin honnête au moins.
Tu nous as calé une Gandalf.
Et ouais. Ah oui, si vous reconnaissez les samples aussi, hein, faites-vous plaisir. Alors, crétin, ça dit quelque chose ?
Crétinisme.
Oui, si c'est un moque d'iode ou un truc comme ça, mais c'est crétin des Alpes. Et en fait, la montagne empêchait les minéraux de passer. Et du coup...
Je te sens
invité à cette mission. Tu manquais de certains apports nutritionnels dont tu avais absolument besoin pour être un minimum intelligent. Et du coup, ça donne des gens pas très bien formés.
Tu étais atteint de crétinisme et après, en gros, t'étais teubé, quoi.
Voilà.
Alors, le crétinisme, c'est une chose, mais en fait, l'origine...
Le christianisme ?
Pas loin. Le crétinisme est une chose, mais justement, en fait, l'origine est incertaine et celle qui conquit la plupart des spécialistes en étymologie, c'est justement le fait que ce soit dérivé de chrétien, crétin, chrétien, parce que...
J'ai pas dit une grosse connerie ?
Eh ben non, pas tant que ça, parce qu'en fait, à la base, on disait, chrétien, c'est en gros innocent, bienheureux, et donc ça dérivait en crétin, et après, quand est apparu le crétinisme, vu qu'ils étaient un petit peu... innocent et bienheureux, on leur a donné cette appellation. Donc ça viendrait du Valaisan, ça vient du Valais, la région des Alpes, où ils appelaient les bienheureux et les innocents crétins.
Non, d'accord. Je suis pas d'accord. Mon explication était mieux.
Tu n'es pas étymologue.
Malgré mes essais.
Et il y a eu effectivement la variante crétin des Alpes avec le crétinisme.
Oui.
Je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille.
J'adore ce film.
Bougre.
Alors, le film, est-ce que tu l'as ?
Oscar.
Ah, très bien, on voit les références.
Le pauvre bougre.
Bougre, en fait, ça vient de bulgarus en bulgare, enfin, qui veut dire bulgare, en fait. Et au Moyen-Âge, en fait, ça désignait, de manière générale, quelqu'un qui avait des mœurs contraires... Exactement. Non, en fait, des mœurs contraires à la...
Pas très catholique.
Voilà, globalement hérétique, contre nature. Et donc petit à petit, bulgare ça a été péjoratif et par la suite ça a été dérivé en c'est le bon bougre, c'est pas le bon bougre, enfin c'est pas le mauvais bougre, etc. Ça a été un peu adouci. Initialement ça pouvait décrire des pédérastes, des personnes de ce genre-là.
Nice.
Putain d'enfoiré.
Cartman.
Non.
C'est pas Cartman.
C'est Kyle.
Putain d'enfoiré.
Ah désolé.
Mais oui.
Bon ça va, c'était South Park.
Alors enfoiré c'est assez rigolo. On l'utilise quand même beaucoup. Oh, putain c'est vraiment un enfoiré. Et est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Non,
absolument pas.
C'est un mec qui s'est fait.
Il est allé à la foire.
Il est resté trop longtemps à la foire.
Ouais, non, essayez de deviner.
Fourré.
Enfoiré. Non. Pourquoi ouais, ça pourrait être péjoratif ?
Enculé.
Non, bah non, vu que c'est enfoiré en fait.
Enfoiré. Est-ce qu'il y a un rapport avec la foire ?
Avec foire, mais qui voulait dire autre chose à l'époque.
Avec le foie.
Enfoiré, plein de foire. Ouh.
Merde, foutre.
Ah,
bah ouais,
foutre proche. En fait,
pipi, caca.
À l'époque, foire voulait dire diarrhée en vieux français.
Oh non.
C'était donc le caca.
Et donc oui. C'est emmerdé en fait.
Plein de merde, gros tas de merde.
Voilà, c'est plutôt plein de merde. En fait, c'était, il y a le sens qui est rentré en fait sur le verbe enfoiré. C'est apparu vers 1587. Et en fait,
vers le 5 janvier 1587.
Approximativement entre 8h37 et 8h39.
Ils étaient en soirée, on sait pas si minuit était passé ou pas.
Mais oui,
je
ne m'avance pas trop. Et en fait, c'est rentré. Le participe apparaît au petit Robert en 1905, enfoiré, donc avec un et. Et avec l'explication souillé d'excrément.
Oh là là.
Donc un enfoiré, ça va être quelqu'un qui va être plein de merde.
Vilain.
Aussi simple que ça.
Garce. Salope.
Alors, oh, salope, deux, pareil, on l'utilise souvent. Salope, est-ce que ça vous parle?
Salope.
Il y a sale dedans.
Salopette.
Ah, sale, oui. Et sale plus autre chose.
Hop. Et. Donc, salopette.
Il faut savoir qu'initialement, en fait,
personne veut parler de la salopette.
C'était prononcé. Non, on ne t'écoute pas. initialement, en fait, c'était prononcé saloupe. Ça aurait pu être prononcé salup aussi. Oup. En fait, donc c'était sale plus oup ou up. Et la up, en fait, était un oiseau. Donc c'est la up faciée. En fait, c'était un. Et oui, bah, ce sont des informations.
C'est l'oiseau.
Oh mon dieu.
Donc la up faciée, en fait, c'était.
Ah, c'est pour ça qu'on dit les noms d'oiseaux.
Déjà. Et j'en sais rien. En fait, bon, déjà, c'était un oiseau qu'on appelait comme ça à cause de son cri parce qu'il faisait oup, 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 oup. Donc on l'appelait la.
Tu peux non.
Et alors, vas-y, Elias, on va le sampler.
Je vous ai pas mis le sample, mais je vous jure que ça fait ça. Mais non, ça fait exactement ça. Mais en fait, surtout, il y a certaines régions de France, on l'appelle le pupu. Parce que son nid.
Il fait pupu.
Non, parce que son nid dégage une odeur dégueulasse en fait. Salope, saloupe ou salupe peut se traduire par sale puante. Alors, je vais vous parler de gernicoton aussi. Alors, pour ça, je n'ai pas de sample, oui. Mais il y a un petit côté historique. Gernicoton.
Et coton.
Alors, coton, oui. Est-ce que ça peut parler à Camille? Gernicoton, est-ce que tu nous
le. Je sais pas comment je le prendrai à la
caution
place.
Historique là, est-ce un petit peu.
Est-ce que tu nous le ferais avec un petit accent de Franche-Comté?
Gernicoton.
Ah, dit comme ça, est-ce que. C'est...
On dirait Barba Papa.
Est-ce que ça vous fait penser à des mots que vous pourriez reconnaître?
Coton.
Géranium.
Non, en fait ça serait.
Germé, non?
Ça serait Jérôni Coton.
Jernis.
Ah, Jernis le coton.
C'est ça. Je mets pas de culotte.
Et en fait, à la base.
Jernis le coton. C'est. Te viens pas ici.
Je préfère le latex, Jernis le coton.
Ça vous fait rire vraiment.
Putain, on n'y arrivera jamais quoi.
Tu sais qu'à chercher à faire des accents chelous là.
Allez, on enchaîne.
C'est quoi l'explication?
Donc, en fait, donc c'est Jérôni Dieu qui a été transformé en Jérôni Coton. En fait, Jérôni Dieu, c'était l'insulte favorite d'Henri IV ou le juron favori d'Henri IV. En fait, son confesseur.
Il a perdu
Hicham. Il y a Hicham qui est en train de décéder.
Il est en PLS.
Mais oui, c'était le père Coton, j'y peux rien. Il est des culottes. Bon.
Mais pourquoi Dieu égale Coton?
Mais oui, c'est ça.
Ah, mais putain, mais si tu me laissais finir.
Pourquoi pas what?
Alors. Donc, c'était l'insulte favorite d'Henri IV, et son confesseur, le père Coton, lui a fait remarquer qu'un roi chrétien ne pouvait pas salir le nom de Dieu aussi souvent, parce que vraiment, il l'utilisait à tort et à travers. Et Henri IV le dit, mais c'est le nom qui m'est le plus familier, Dieu. Donc, je renie Dieu, c'est ce qui me vient, le plus facilement, à part peut-être votre nom. Et du coup, le père Coton lui a répondu, eh bien, dites Gernicoton alors. Donc, il a dit Gernicoton au lieu de dire Gernidieu.
Toujours plein de sages paroles, c'est curieux.
T'as vu, c'est fou.
Il y a la merde des Margoulins. Qui est Margoulin?
Margoulin.
Margoulin, ouais.
On dirait le nom d'une bière.
En fait, margouliné, c'était utilisé dans le sud de la France, et ça voulait dire. C'était un terme utilisé pour les marchands itinérants. Et en fait, ça dérivait. Un margoulin, c'était une personne qui avait peu de scrupules, qui était un arnaqueur, globalement.
Un directeur commercial.
Pourquoi il me tutoie à chaque fois, ce con? On n'a pas gardé les chèvres ensemble, que je sache.
Alors celle-là, elle est facile.
Le con, c'est le sexe féminin.
Voilà. Mais je voulais juste essayer.
Moi je sais pas.
C'est le sexe féminin.
Bah, Camille, ah bon, Camille t'expliquera.
Ok.
Voilà,
le sexe,
c'est la chatte.
Ah,
voilà.
Le sexe.
Tu sais, le sexe. Ouais.
Non, mais j'ai cru que c'était. Bon, bref.
Mais du coup, est-ce que vous savez ce que ça peut vouloir dire déconner?
Ah ben, sortir prématurément.
Sortir du con.
C'est ça. En fait, c'était juste pour pourrir vos ébats futurs. En fait, déconner, c'est le moment de l'acte sexuel où le sexe masculin ressort par accident. Donc, votre copine, votre conjoint pour dire « Oh putain, tu déconnes !»
Ouais, ça roupie, c'est l'acte 2, encore c'est Narvalo. Et moi je vous dis rien que ça vous y, alors ne parle pas trop. Donc à tout prix, faut que je représente le son de Croix Chavo.
Voilà,
il était très long ce sample.
C'était juste pour le plaisir de vous sortir un petit son de Croix de Chavo, parce que bon, pour ceux qui
savent, s'habite à Croix de Chavo.
Voilà, on enregistre depuis Croix de Chavo, donc c'était pour le plaisir.
Narvalo, l'insulte, j'imagine.
Voilà, là je vais aborder quelques exemples plus récents, donc notamment Narvalo. Narvalo, ça vous parle?
Oui.
Ça vient de l'argot et ça veut dire fou.
Argot de quoi?
L'argot
parisien.
L'argot des bouchers.
Non, l'argot des bouchers, c'est le luchébem. Et ça ne vient pas de l'argot des bouchers.
J'ai dit au pif, hein.
Je vous ferai peut-être un sujet là-dessus. Le loup de chez Bem, en fait, c'est une langue qui était parlée par les bouchers pour ne pas se faire comprendre de leurs clients.
Et je vais lui mettre un truc de merde, t'inquiète.
Non, mais exactement, c'est parlé dans Paris et c'était vraiment connu. Il y a des bars, des restos, des boucheries qui s'appellent. Un resto d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle le loup de chez Bem.
Tout à fait. Voilà. Du coup, faut pas y aller parce qu'ils vont vous le mettre à l'envers.
Non, si, ça changeait. Donc, ça vient de l'argot, effectivement, mais ça vient en fait. Enfin, argot, pas vraiment. Ça vient du romani. Le romani, en fait, c'est une des langues parlées par les Roms, donc il y en a plusieurs, le romani, le sinto, etc., il y en a beaucoup. Et narvalo, ça veut dire fou, initialement, et ça a été dérivé après comme en étant mec, personne, etc. Donc on peut dire facilement, ah, oh, salut narvalo, ça va bien narvalo, etc.
On peut appeler son fils comme ça, carrément.
Narvalo, oui, c'est original.
Voilà.
Pourquoi pas.
Le nom d'un détective aussi.
Navarro.
Narvalo, j'écoute.
Tant pour moi.
Excellent.
Commissaire Narvalo, c'est moi.
La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les toi.
Riska. Riska m'amène.
Alors, donc c'est qui?
C'est Caris.
Ah, Caris.
Chouin,
qui veut dire?
Je sais pas. Fille aux mœurs légères.
Plus que. Mais c'est plus, beaucoup plus carré que ça. Hein. C'est prostituée.
Fille de petite vertu.
Pute.
C'est... Bourgandine.
Ah bah.
C'est déjà Caris qu'on avait samplé pour le sujet sur les putes.
Exactement.
C'est possible, je m'y connais très mal en Caris, hein, tu sais.
Tu sais, mec, qui disait.
J'ai une hygiène dentaire très bonne. Hein. Caris.
Oh là 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 là.
Allez, on va la passer. En fait, voilà, Chouin, ça vient du Nouchi, ou Nouchi, je ne saurais pas dire comment ça se prononce, qui est en fait un argot ivoirien qui était initialement parlé par les vagabonds et qui ensuite a été adopté par la jeunesse ivoirienne. Donc globalement c'est pas très très poli. Et quand le mec dit c'est peut-être une fille bien mais nous on préfère les chouins, en gros elle a l'air cool mais on préfère les putes. C'est pas forcément ouf.
On a pas risqué, hein.
Et là je vais vous parler de voilà.
Ah, pute borgne.
C'est ma petite préférée. On se la refait juste pour bien l'entendre. Alors celle-là, bon, déjà c'est ma petite préférée. Pour ceux qui me connaissent, je la sors assez régulièrement au bureau à peu près 10 à 20 fois par jour. Et je suis assez content parce qu'en fait celle-là je l'ai pas trouvée sur internet, donc ce que je vais vous donner c'est pas une définition exacte de ce que j'ai pu trouver, mais c'est
une interprétation personnelle,
une interprétation oulala, ou une déduction de ce que j'ai pu voir de l'histoire en fait. Alors encore une fois, Camille connaîtra peut-être Catherine Henriette Bélier.
Catela Borgnasse.
Ah oui.
Ah vraiment.
Putain, elle est incollable. Ah déjà, ce qui est rigolo.
Elle faisait des pipes, la bouche fermée. Je vous laisse imaginer comment ça se passait.
Non, déjà, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, si j'ai pas de bêtises, donc en partie ceux qui sont autour de la table, Cato la Borgnasse, ça vous fait penser à quoi?
Catherine
qui a donné.
Cato.
Qui a donné Catin, putain. Catin, donc pute et la Borgnasse ou la Borgnasse, donc. Pute borgne.
Jeanne au secours.
Jeanne au secours.
Oula. Oula là.
Bon, on avance. Et en fait, Catherine Henriette Bélier. Donc dite Cato la Borgnasse, elle était en fait la première amante de Louis XIV. Et en fait, elle a été mandatée, elle était très proche de Anne d'Autriche, elle a été mandatée par... Donc tu me dis Camille, je suis sous ton...
Non, vas-y. En roue libre, Ilias, en roue libre.
elle a été mandatée par Anne d'Autriche, donc sa mère, pour apprendre à Louis XIV les plaisirs de la chair, etc.
Bah pour le déniaiser, hein.
Ah non, mais complètement.
Clairement.
Pour le déniaiser. Ouais. Et en plus, alors la rumeur dit qu'on a choisi une Borgnasse. Bah pas toute jeune parce qu'elle avait une quarantaine d'années alors que Louis XIV avait une quinzaine d'années. On l'a choisie pour qu'elle puisse lui apprendre les plaisirs de la chair sans pour autant le détourner du droit chemin parce qu'elle n'était pas de sang noble, et pour autant elle devait lui apprendre plein de choses intéressantes.
Donc c'était tu vas pas la marier parce qu'elle va bientôt mourir mais elle va te montrer comment ça se passe.
Bah, oui, puis elle avait qu'un œil.
Ben voilà, donc le mec a dû se dire bon, c'est cool de Zeb, mais il y a des meufs assez cool à côté.
Comment tu parles de ton roi, le mec.
Et en fait, alors déjà, bah, elle a bien servi la France, puisque en plus on lui a fait un joli cadeau. Elle a reçu. Alors déjà, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut offrir à une personne qui déniaise Louis XIV? Juste pour rigoler. Non, t'inquiète pas, tu peux aller plus là. Tu peux aller bien plus.
Elle a eu des bijoux, je crois. Elle a eu des bijoux,
tu
des
peux aller
diamants.
Bien plus.
Et elle s'est fait construire un hôtel particulier de bâtard avec.
Voilà, un château et une pension de 2000 livres en récompense de ses services. Et bah putain.
Et son hôtel particulier est toujours visible aujourd'hui. Il est rue François Miron dans le Marais. Il est magnifique, c'est l'hôtel de Beauvais. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un des sièges du Trésor public à Paris. Mais il est très très beau. Donc je vous invite à y aller, rue François Miron, hôtel de Beauvais. Vous trouvez facilement.
Je tiens juste à passer une petite annonce. S'il y a quelqu'un qui veut se dépuceler et qu'il veut m'offrir un
petit
château.
J'ai un œil à me dévouer.
Sauf que t'es ni une pute ni borgne.
Voilà.
Alors déjà, est-ce que vous auriez un petit juron ou une petite insulte favorite, une exclamation
Et vas-y, la putain attends. De ta mère.
Chacun votre tour, Karim.
La putain de ta mère.
Il fait une chaleur de pute.
Ah, tu sais que j'utilise, mais outrageusement depuis que tu l'as dit.
Mais elle est géniale.
Nahraq din babak l'hallouf.
Moi, c'est un petit peu plus long, mais c'est... Ah, si les rues étaient pavées de bites, tu marcherais sur le cul.
Oh non.
Vraiment, c'est Booba qui dit ça.
Bah, ça sera la fin de cet épisode.
Bah oui, merci.
D'où le jingle, finalement. Oh.
Aussi sympathique qu'agréable, on remet assez encore.
Aussi sympathique qu'agréable.
Bah oui, c'est
ça. On dirait un match de pétanque.
C'était sympa.
sympathique qu'agréable.
On remercie encore Vincent pour le pinard qui nous a accompagné tout le long de cet épisode.
Ah oui, mais parce que pendant le podcast, on a descendu 3 bouteilles quand même.
Bah oui, il y avait littéralement en plus. Non, c'est très cool. On vous prépare encore plein de choses sympathiques pour la rentrée. Vous allez voir, on va vous teaser petit à petit à ce propos.
Plein de bouteilles, on va vous teaser.
Voilà. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On a encore eu plein de remarques.
Envoyez-nous du vin,
de critiquer aussi.
On a encore eu plein de remarques super sympathiques. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur, c'est super cool.
Vous êtes trop mignon, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites.
Oui, bah vous verrez, vous allez non pas le regretter, mais vous allez, ça va être cool.
On vous aime d'ailleurs.
On vous prépare quelques featuring sympathiques aussi. N'hésitez pas à, comme je disais, liker, partager, etc. Laisser des étoiles sur iTunes aussi.
Je suis pas sûr qu'on dise featuring.
Mais si tu veux. Les étoiles sur iTunes, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité, donc
de
toucher plus de personnes, donc
et
ça nous fait plaisir.
Plus de vin.
Donc ça nous fait plaisir. Et puis voilà, dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pardon Maman. Des bisous.
Ciao,
allez,
la
ciao.
Mif.
Salut.
Allez,
bisous.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ce qu'il dit.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.